Et si on partait sur Europe 1 tous les jours entre 16h et 18h, je vous emmène pour un grand voyage. Chaque jour, vous le savez, deux destinations en France, au bout du monde, juste pour le plaisir de rêver. C'est parti.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Tout à l'heure, après le flash de 17h, nous partirons pour un pays très très attachant, puissant en émotions. Il faut imaginer les cités perdues dans la jungle, le lac Tonle Sap, un lac assez incroyable qui gonfle et se dégonfle jusqu'à faire 6 ou 7 fois sa taille. Et alors que c'est un lac gigantesque, imaginez la vie autour de ce lac quand il change comme ça de dimension. Les temples par centaines, la capitale Phnom Penh, très très différente des autres capitales asiatiques, plus douce, plus calme. Nous irons au Cambodge. Et puis juste avant, maintenant, nous allons découvrir une région française fantastique. C'est une succession de sites magnifiques. Alors, vous allez reconnaître, hein, c'est la côte de Granit Rose, le golfe du Morbihan, le sentiment de bout du monde, parfois sur les pointes du Finistère. Et puis parfois aussi ce côté, moi, que j'aime beaucoup, un petit peu mystérieux, un peu mystique, avec notamment les mégalithes, la plus grande concentration de mégalithes du monde entier à Carnac. Nous allons repartir ensemble en Bretagne. Et évidemment, je pars avec toute une bande de moussaillons. Et ils sont en pleine forme, ils sont reposés tout le week-end, ils sont d'attaque. Nathalie Elal, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Notre moussaillonne historique qui nous cherche des anecdotes incroyables dans l'histoire et le passé des régions. Avec une seconde moussaillonne, Emmanuel Jarry, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est la gourmande de l'équipe qui nous ramène les bonnes saveurs et les bons mets du monde entier. Et puis Jean-Bernard Carrier du guide de Lonely Planet.
Eh bien, infidèle à bord.
Hein. Fidèle voilà. À bord, toujours gardant le cap.
Oui, voilà, gardant le cap.
Lui, il grimpe sur le mât.
C'est vrai, on dit qu'il est perché parfois, mais c'est juste parce qu'il est en haut du mât. Dites-moi, Jean-Bernard, la Bretagne.
Faut-il la présenter ? Parce que je crois que tout le monde la connaît autour de cette table et parmi nos auditeurs, nos auditrices. Alors, on va juste rappeler qu'elle est vraiment à l'extrême ouest de la France. C'est une péninsule, la Bretagne, qui s'avance dans l'océan Atlantique. Il y a une partie dans la Manche également. La partie nord, c'est la Manche. Un littoral incroyable, déchiqueté, des côtes incroyables, des milliers de kilomètres de côtes. Ouais. Un intérieur qui n'est pas très escarpé.
1800 kilomètres, je crois.
C'est beaucoup. Ouais. Ça fait vraiment beaucoup. Autant dire, vous trouverez votre coin de plage assez facilement. Un relief
pas
très
toujours facile d'étendre sa serviette. C'est un peu rocailleux.
C'est
parfois
rocailleux, mais il y a des pépites. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et puis, un relief assez modeste, mais puissant. Et avec du caractère, j'espère qu'on en parlera aussi tout à l'heure. Et puis, 4 départements, l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor, le Morbihan et le Finistère.
Et c'est très grand, la Bretagne.
Ouais, c'est grand, voilà.
Les personnages célèbres de Bretagne, Nathalie.
Oui, alors la Bretagne, ça chante en breton, comme avec Alain Stivell, qui est curieusement né en Auvergne, mais c'est néanmoins un des plus grands ambassadeurs de la musique celtique. Mais ça chante aussi en français, la Bretagne. Rappelez-vous de Jean-Michel Karadec, qui était né à Morlaix, avec son énorme tube des 70s, Ma petite fille de rêve. La Bretagne tout entière a pleuré sa disparition en 1981. Et puis aussi Nolwenn Leroy, évidemment, une des plus belles voix féminines françaises, née à Saint-Renan. Mais il y a aussi des personnages plus ténébreux, comme Gilles de Rais, né au XVe siècle, chevalier et seigneur de Bretagne, condamné à la pendaison et au bûcher à Nantes pour avoir assassiné quand même 140 enfants, voire plus. C'est un petit peu le Barbe Bleue breton, on peut le dire comme ça. Vous avez aussi Anne de Bretagne, duchesse de Bretagne au XVe siècle, reine de France. Elle a légué son cœur à la ville de Nantes. Il est dans un reliquaire, dans un musée là-bas. Robert Surcouf, le célèbre corsaire malouin, XVIIIe siècle. François René de Chateaubriand, le premier écrivain romantique, là encore 18e siècle, auteur entre autres des célèbres mémoires d'outre-tombe qui foutent le bourdon à toute une génération hein, de
oui,
gens comme moi.
C'est beau.
C'est un très grand écrivain. Et puis dans un registre moins romantique mais néanmoins efficace, Pierre Cambronne, né et mort à Nantes, 1770-1842, général d'Empire, resté célèbre par la légende du mot qu'il aurait prononcé à Waterloo, un mot de 5 lettres qu'on entend souvent et qui porte chance, ouais. Paraît-il. Je ne peux pas le dire ici, mais je vous le dis tout mon cœur, en tout cas avec mon cœur.
Emmanuel Jarry, journaliste spécialisé dans le voyage et la gastronomie. Vous avez bien choisi vos spécialités, vous. Ouais. Hein. Ce que vous auriez pu choisir, je ne sais pas, blocos et,
ah oui, non.
Et cave humide. Non, pas du
non,
tout.
Non. Dès que j'étais toute petite, déjà, j'avais choisi de... Je voulais être inspecteur au Guide Michelin. Oui.
Très bien. Vous êtes à l'origine de l'émission C'est meilleur quand c'est bon, qui est un succès sur Internet. La Bretagne, vous dites quoi derrière? Crêpes
Ah bah, je dis crêpes, galettes, vous savez, galettes saucisses sur les marchés, mais aussi je dis de l'iode, beaucoup d'iode. C'est le bord de mer et en particulier le homard. C'est la pleine saison.
Très bien. Dans un instant, donc, on va voyager en Bretagne avec, en plus de toute cette petite équipe, un amoureux de la Bretagne. Rien que de prononcer son nom, vous y êtes. C'est Guillaume de Tonquédec. Il sera avec nous dans quelques instants sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait sur Europe 1, 2 heures de voyage tous les après-midi, sans aucune contrainte, juste pour le plaisir de s'évader. Après 17h, je vous emmènerai au Cambodge, le pays d'Angkor. Angkor, c'est la cité perdue dans la jungle, c'est une merveille. C'est le pays aussi où on mange des tarentules, je vous raconterai ça tout à l'heure. Mais là, tout de suite, nous sommes en Bretagne. J'adore ces régions où dès qu'il y a une petite note de musique du coin, tout de suite vous y
on
êtes.
Sait où on est.
Ouais, ouais, c'est super. Le pays de la cité corsaire de Saint-Malo et de ses remparts sublimes. Le pays des fesnos. J'aime beaucoup les fesnos parce que c'est des fêtes, une sorte de gros bals où toutes les générations se mélangent.
C'est très entraînant en fait.
Et c'est génial parce que vous avez des jeunes, des plus âgés, tout le monde se mêle vraiment et dans une vraie gaieté, c'est super. D'ailleurs, ces balles, si on peut dire balles des fesnos, ont été inscrits au patrimoine mondial immatériel de l'humanité. Cet après-midi, notre guide en Bretagne sera Guillaume de Tonquédec. Vous le connaissez, il a été pendant 10 ans Renaud Lepic, il est acteur. Renaud Lepic dans Fais pas ci, fais pas ça. Depuis, il a enchaîné les succès au cinéma, il sera à l'affiche du film Les Blagues de Toto de Pascal Bourdieu à partir du 5 août. Et surtout, il est breton de cœur. Bonjour Guillaume de Tonquédec.
Bonjour Philippe Googler, Nathalie Emmanuel, Jean-Bernard.
Oh, bien, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez bien bossé, c'est bien, bravo.
Vous l'avez vu, hein.
Ouais, je suis impressionné. Dites-moi, ce nom de Tonquédec, ça sonne bien breton. C'est je crois, le nom d'un château dans les Côtes d'Armor, c'est ça?
Oui, Tonquédec, c'est un village des Côtes d'Armor. Il y a en effet un château fort du XIVe siècle. Et mon nom, ma famille, vient de cet endroit, voilà. Par mon père et par ma mère. On est des métayers, pas très loin non plus de la côte de Granit Rose.
Ouais. Mais alors, qui a donné le nom à qui? C'est le château qui a donné le nom à la famille ou l'inverse?
Alors, je ne veux pas dire de bêtises parce que ma famille m'écoute, mais il me semble bien que c'est un monsieur de Quatmen qui avait construit le château et il a été racheté par les Tonquédec qui ont mis leur nom sur le château. Si je ne dis pas de bêtises, je vais me faire engueuler par mon père tout à l'heure, mais voilà.
Bon, c'est pas grave. D'accord. Ah, c'est extraordinaire ça.
Et... C'est un endroit qui se visite, c'est un endroit merveilleux avec ce château fort qui est en ruine. Il y a une ambiance magique comme partout en Bretagne, merveilleuse. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des contes, des légendes, il y a plein de choses qui se passent là-bas.
Ouais. Mais le château est toujours dans la famille?
Non, il est sorti. D'après ce que j'ai su, je crois que c'est faux, c'est une légende, mais elle me plaît beaucoup. Elle serait sortie de la famille à cause d'une comédienne. Un ancêtre aurait fauté avec une comédienne et le château serait sorti de la famille à la suite de ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça me plaît beaucoup d'y croire.
Ah voilà, oui, ça nous plaît.
Étant comédien moi-même.
On aime bien ce genre d'histoire. Et votre famille est entièrement bretonne?
Non, il y a d'autres influences, mais il y a quand même principalement bretonne. Ouais. Mais moi, je suis un breton de cœur, comme vous l'avez très bien dit. C'est-à-dire que j'ai jamais vécu une année scolaire là-bas. Ma maman se baignait quelques jours avant de me mettre au monde dans l'eau bretonne à Trégastel. Et depuis, j'y vais. Ça me manque si j'y vais pas physiquement. D'ailleurs, j'y suis. Je suis en face de la plage de Trestraou, dans les Côtes d'Armor, au-dessus de la côte de Granit Rose. C'est juste exceptionnel. Je regarde la mer, là, devant le panorama des 7 îles. Bon voilà, tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, venez vite quoi.
Ça ressemble à quoi?
Là, il fait très très beau, la mer est verte et c'est des rochers roses posés dans l'eau et qui apparaissent plus ou moins selon les coefficients de marée, selon les heures auxquelles on regarde et puis selon l'ensoleillement. Donc c'est un paysage vraiment exceptionnel.
Donc c'est la côte de Granit Rose?
Alors elle commence à l'extrémité ouest de Perros-Guirec, la côte de Granit Rose, et elle se prolonge jusqu'à Trégastel et au-delà. Mais c'est que sur quelques kilomètres, hein, c'est pas très très long. C'est un phénomène géologique assez dingue, c'est-à-dire que le feldspath, n'est-ce pas, est majoritaire et plus rose à cet endroit-là. Donc ça donne cette couleur de roche unique au monde.
Ouais. C'est un endroit vraiment incroyable. Je crois que, alors c'est pas tout, excusez-moi de vous contredire, mais vous allez voir, c'est presque aussi bien. Je crois qu'il n'y a que trois endroits au monde comme ça où il y a ce genre
vous
de phénomène.
Vous avez raison. Mais quand on est breton, on est chauvin, donc on pense qu'il n'y a que la technique.
Alors vous êtes pardonné. Je crois que c'est la Corse et la Chine, mais bon, à vérifier.
Vous avez raison, ouais, il y en a en Corse aussi. Ouais.
D'accord.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, parce qu'il faut faire attention avec les Corses aussi, il faut être prudent.
Il faut les ménager.
Ah, mais non, on s'aime bien les Bretons et les Corses, on a plein de points communs dans le caractère.
Oui, insulaires tous les deux. Hein.
Oui, c'est vrai, ouais. Insulaire et un peu rebelle.
Un peu rebelle, ouais. D'ailleurs, comment vous définiriez le caractère breton? Parce que souvent on dit que voilà, c'est des gens qui ne se laissent pas faire, qui ont un caractère bien trempé. Comment vous iriez au-delà de ça?
Je sais que moi, je suis un Parisien en fait, hein, je viens en vacances en Bretagne, donc il faut se faire accepter par les Bretons. Ils commencent par vous regarder, vous observer, et je crois que il faut les respecter, comme beaucoup de monde, mais ils ne donnent pas leur confiance comme ça de façon automatique, et ils ont bien raison à mon avis. Par contre, une fois que vous êtes accepté, adopté, si vous êtes respectueux, les portes sont ouvertes. Hein. Je me souviens j'ai tourné plusieurs films en Bretagne et tous les gens des villages dans lesquels on a pu tourner se sont tous mis en quatre pour nous trouver des décors, des accessoires, etc. Ils arrêtaient même les voitures sur la route, alors qu'à Paris, on se fait tous engueuler dès qu'on fait un tournage. Là, en Bretagne, ils disent « Ah, c'est pour le tournage ?» Attendez, ben non, il n'y a pas de problème, j'arrête le compteur de ma voiture. Vous voulez qu'on vous fasse des crêpes? Non, c'est un truc de délire. Hein. C'est extraordinairement chaleureux une fois que vous êtes accepté.
Guillaume de Tonquédec, on va continuer à découvrir la Bretagne avec vous dans quelques instants. Vous êtes sur Europe 1, il est 16h17, on voyage, ça continue.
16h-18h, et si on partait? Philippe Googler sur Europe 1.
Nous voyageons tout à l'heure à partir de 17h, nous serons au Cambodge. Et là maintenant, nous sommes en Bretagne avec Guillaume de Tonquédec qui est avec nous en direct. Guillaume, il y a quelque chose que je trouve en Bretagne de très puissant et que j'ai souvent du mal à décrire. C'est ce côté un peu mystérieux, voire mystique. Là, c'est une terre qui est un peu habitée. Vous le ressentez vous aussi ça?
Oui, bien sûr. C'est une terre de croyance, c'est une terre catholique extrêmement forte et mélangée aussi à beaucoup de choses païennes. Ça, c'est un mélange des deux. Il y a une puissance de pensée. Les ancêtres aussi, la transmission, il y a quelque chose de très important et qui explique la richesse de cette terre, de ce caractère, de cet endroit. Donc, oui, il se passe des choses là-bas. Ouais, c'est une terre qui bouillonne.
Oui, mais est-ce qu'il y a beaucoup de superstitions, de croyances un peu parallèles en Bretagne?
Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Moi, je sais, j'adore faire du bateau. Par exemple, on ne débaptise pas un bateau parce que ça porte malheur. Ou alors, si on veut débaptiser son bateau parce qu'on l'a racheté à quelqu'un d'autre, il faut le mettre en route, faire avancer et avoir un fusil et tirer plusieurs coups derrière le bateau pour tuer la bête qui suit le bateau.
Oh bah,
pour vous porter malheur.
C'est
alors, quand vous avez tiré ces coups de feu, vous pouvez rebaptiser le bateau. Voilà. Sinon, il vaut mieux garder le nom du bateau.
Ah ouais.
Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'en ai racheté un d'occasion avec mon premier cachet. J'ai commencé par acheter un bateau tellement j'avais envie de naviguer, ouais. Mais j'ai gardé le nom du bateau.
Et on croit beaucoup aux esprits.
Oui, bien sûr. Oui, beaucoup en Bretagne. Il y a beaucoup de croyances autour des esprits, des gens qui rôdent, etc. Les fantômes qui reviennent, les ancêtres aussi. Mais c'est aussi la transmission. Il y a aussi là-dedans l'idée du respect. C'est-à-dire ce que je viens de vous raconter sur le nom du bateau, ça peut s'appliquer à d'autres choses. Il faut respecter ce qui a été fait avant. Je trouve ça assez beau, quoi.
Nathalie ?
Oui, il y a un personnage de premier plan hein, dans la mythologie bretonne qu'on appelle l'Ankou. Je pense que Guillaume, vous devez connaître ça.
Oui, c'est celui qui représente la mort.
Oui, il est très très présent. Hein. Ouais, très présent.
Ouais.
Et moi, je me souviens aussi d'une enfin, c'était en forêt de Brocéliande, qui est un lieu aussi très, très, très habité. Et j'avais suivi une dame dont la spécialité était d'aller repérer et cartographier les lutins de la forêt. Et bien, au début, je trouvais ça un peu rigolo, mais je vous assure, ne me prenez pas pour un fou, mais il s'est passé des trucs dans cette forêt. Il y avait des vibrations assez particulières. Et c'est vrai que ce lieu dégage quelque chose de très fort, un peu mystique.
Oui, moi, c'est ça que j'aime bien aussi. Ça me manque si je viens pas dès que je peux en Bretagne. Ça me manque vraiment. J'ai un manque physiologique. Donc peut-être que c'est ça aussi, quoi, de retrouver ces esprits ou la confrontation aussi avec la nature. Là, je vous parle de la mer. Je suis devant la mer. J'adore aller naviguer dessus, mais elle sera toujours plus forte que nous. En fait, ça nous ramène à ce qu'on est réellement, c'est-à-dire qu'on doit faire attention et la respecter. Il faut faire avec, on ne peut pas faire contre. Donc c'est quand même pas mal dans des métiers comme le mien ou comme les nôtres d'ailleurs, où on est souvent, il y a beaucoup de miroirs aux alouettes, de paillettes, etc., d'être amené à des choses fondamentales, quoi. On n'est pas grand-chose et faisons avec ce qui nous entoure, quoi.
Alors, il paraît que vous avez dit un jour que si vous ne pouviez plus être acteur, vous seriez pêcheur. Vous pouvez nous expliquer ça ?
Ben, j'adore me promener sur l'eau et je pêche moi-même. Tout à l'heure, je crois que c'est Jean-Bernard parlait du homard. En effet, je pêche mes homards, donc c'est très chic. Je pêche et je cuisine mes homards, donc j'adore ça depuis toujours. Je vous dis, la première chose que j'ai faite, c'est d'acheter un bateau. C'est aussi pour aller à la pêche, donc c'est un métier qui me passionne. Et puis des jours éventuellement de coups de blues où je me dis si ça marchait pas, je pourrais devenir marin pêcheur, mais je crois que j'en serais pas capable. C'est un métier, c'est merveilleux quand il fait beau comme aujourd'hui. Ouais. Par contre, quand on doit y aller tous les jours pour gagner sa croûte, c'est des métiers extraordinairement difficiles, quoi. Donc je les respecte beaucoup.
Moi, je pense que c'est un des métiers les plus difficiles du monde. C'est extrêmement dur.
C'est très difficile, et puis, mais c'est aussi le rapport à la nature, c'est ça qui me plaît en fait. C'est pour ça que je dis que j'aimerais faire ce métier-là éventuellement, parce qu'on se retrouve face à soi-même et face aux éléments, je trouve ça magnifique.
Ouais. Est-ce qu'il y a un caractère de la Bretagne, un caractère breton que vous avez acquis, qui fait partie de vous maintenant ? Un trait de caractère.
Ben, je crois que j'ai toujours été extraordinairement têtu.
Non, ben, ça va faire plaisir aux Bretons.
Ouais, mais moi je trouve que c'est une qualité, quoi. Parce que quand je veux quelque chose, c'est très difficile de me faire lâcher prise, quoi. Il faut me proposer mieux, quoi, ou me convaincre que c'est mieux. Sinon, j'irai jusqu'au bout, quoi. Ma maman me racontait toujours que j'ai appris à plonger tout seul au bout de la digue à Trégastel, alors que l'eau était gelée, mais j'ai continué à m'entraîner à plonger tout seul parce que je voulais y arriver, quoi. Et j'ai gardé ça, je l'ai toujours en moi, quoi.
La persévérance.
Ouais, la persévérance. C'est comme ça. Ouais, l'envie, et puis mais le caractère têtu, ça peut être un peu pénible pour l'entourage, hein, des fois, de ne pas vouloir lâcher l'affaire, quoi. Hein.
Alors, il y a aussi le parler breton, il y a des tas d'expressions qui sont assez marrantes, il y en a que vous aimez particulièrement ?
J'en avais une, je l'ai oubliée.
Moi, j'aime bien celle sur les mouettes.
Ah oui, c'est ça, voilà, exactement. En fait, y en a, oui, quand on est en bateau, justement, on dit... quand les mouettes ont pied, il est temps de s'inquiéter.
Voilà, c'est vrai. Voilà, super.
En effet, il y a le phénomène des marées en Bretagne et on peut très bien passer à un certain moment, mais une heure après, on ne passe plus, parce qu'on a beaucoup de mal à comprendre en Méditerranée, alors que c'est le même endroit, tout simplement parce que la mer a baissé, quoi. Donc, quand les mouettes ont pied, il est temps de s'inquiéter, ou alors quand un verre est vide.
Je vous arrête parce que je suis presque un peu déçu, parce que pour moi, c'était une expression de poivreau, ça. C'est-à-dire qu'au bistrot, quand on n'a plus de vin, on dit les mouettes ont pied.
Alors non, c'est là on dit c'est marée basse.
Ah oui.
Voilà.
Ah, on dit c'est marée basse en Bretagne, d'accord.
Voilà. Okay. On donne son verre en disant c'est marée basse. Voilà.
Et là sur la plage, là, c'est comment, Guillaume? C'est marée basse aussi pour vous?
Là, la mer est en train de remonter. Voilà, on est à mi-marée. C'est un spectacle, mais vraiment exceptionnel.
Alors, il paraît que vous avez une crêpe à votre nom, c'est ça?
Ah oui, vous êtes très très bien renseigné. En effet, ouais, la première chose que je fais quand j'arrive en Bretagne, je vais faire un apéro direct, je vais dans une crêperie qui s'appelle Les Vieux Gréments et je mange des crêpes. J'appelle sur la route et je dis, est-ce que vous pouvez me garder, s'il vous reste un bout de table, etc. Et je viens, voilà, en famille, manger, déguster des crêpes. Et puis un jour, la propriétaire m'a proposé une crêpe avec une glace au caramel salé, arrosée de caramel au beurre salé fondu. Je lui ai dit, c'est beaucoup trop lourd, il faut mettre une glace vanille à la place de la glace caramel. Vous imaginez le truc quand même. Et du coup, elle a appelé ça la Tonquédec. Et du coup, je commande à chaque fois une Tonquédec.
Ah, c'est la classe quand même.
Ouais, c'est la classe.
Ouais, oh, c'est marrant, c'est un clin d'œil. Mais c'est aussi le nom du village, hein, parce qu'elle ne s'appelle pas Guillaume de Tonquédec, elle s'appelle la Tonquédec, plus générique.
Merci beaucoup à Guillaume de Tonquédec de nous avoir raconté votre Bretagne à vous. On y est, alors on est bien parti avec vous. Je rappelle qu'on vous retrouve mercredi au cinéma à l'affiche du film Les Blagues de Toto de Pascal Bourdieu. Bon séjour en Bretagne.
Merci, merci, merci à vous.
Au revoir dans un tout petit instant.
Au revoir.
On se retrouve pour les histoires hautes en couleur de Nathalie Elal sur la Bretagne. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Philippe Googler.
Et tout à l'heure, après le flash de 17h, nous partirons pour l'univers incroyable du Cambodge. C'est un pays extrêmement riche en émotions de toutes sortes. Ça va des îles paradisiaques aux jungles profondes, à Phnom Penh, la capitale si différente, si calme par rapport aux grandes cités bouillonnantes d'Asie. C'est vraiment un pays que j'aime beaucoup. On vous fera découvrir tout ça tout à l'heure. Pour l'heure, nous sommes en Bretagne et Dieu sait qu'il doit y avoir des histoires fortes dans cette région très riche. Nathalie, racontez-nous.
Oui, j'ai envie de vous parler d'un personnage qui a traversé les années sans prendre une ride.
Chantal Goya.
Oui, non, c'est pas l'histoire de Chantal. Hein. Non, non, non. C'est l'histoire de Bécassine. Alors, effectivement, une histoire très longue. Vous allez voir, elle commence en février 1905. Jacqueline Rivière est la rédactrice en chef de la Semaine de Suzette. C'est un magazine hein, pour petites filles modèles de la bourgeoisie. Et cette dame s'aperçoit au dernier moment, juste avant le bouclage, hein, ce qu'on appelle le bouclage dans nos métiers, qu'il y a une page blanche. Donc, elle improvise une histoire marrante. La petite boniche bretonne, juste débarquée de sa province, qui comprend rien, qui confond tout et qu'on ne comprend pas bien non plus à cause de son mauvais français et de son accent. On dit qu'elle baragouine les bretonnes.
Ah ouais. Et pourquoi Bécassine ? Pourquoi ce nom-là ?
Eh bien, en fait, sa créatrice la baptise au départ Anaïg la Bornaise, enfin la Bornée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelqu'un qui est borné.
C'était pas très sympa pour les Bretons, tout ça.
Vous allez voir, pas du tout sympa. Elle est née à Clocher-les-Bécasse, enfin dans l'histoire. Donc, évidemment, elle la surnomme, non pas Bécasse, mais Bécassine, parce que c'est un peu plus doux. Puis elle la place chez une aristocrate, la marquise de Grantaire, comme bonne d'enfant. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'à l'époque, il y a une émigration bretonne très importante. Il y a beaucoup de jeunes femmes, jeunes filles qui débarquent, Gare-Montparnasse, et qui se place comme domestique et bonne d'enfant dans la capitale. Et la Bretagne, c'est synonyme de valeur morale, d'ordre, d'obéissance, de piété. Enfin, dans l'esprit de la bourgeoisie, c'est une vision très conservatrice de la société. Le succès, en tout cas, est immédiat. Les dessins sont exécutés par Émile-Joseph Pinchon, les textes d'abord écrits par Jacqueline Rivière, puis ensuite par l'éditeur de la Semaine de Suzette lui-même, Maurice Langereau, qui signe Comrie. Tout ça, ça donne 25 albums entre 1913 et 1939, vendus à, écoutez-moi bien, 1 200 000 exemplaires.
Ah, c'est dingue.
C'est-à-dire un succès d'édition absolument exceptionnel. Et le dernier album est paru bien, bien plus tard, en 1992. Il s'appelle Bécassine au studio, c'est-à-dire que la série, les albums ont continué bien après ces époques-là.
Mais alors, est-ce que ça veut dire que Bécassine, c'est l'ancêtre de la BD ?
Oui, parce qu'elle est née 3 ans avant Les Pieds Nickelés, 24 ans avant Tintin. Donc, c'est vraiment la doyenne hein, des héros de BD. Et en plus, c'est une femme. Et d'ailleurs, les spécialistes de la BD, ils disent que Pinchon et Comrie ont été les précurseurs de Hergé parce qu'il y a un trait rond, vif, moderne. C'est un portrait lunaire, hein, cette Bécassine. Elle n'a quasiment pas de bouche. Puis c'est un personnage qui a le don de s'attirer des ennuis. Par exemple, parce qu'elle ne sait pas utiliser la technologie moderne, comme on dirait aujourd'hui. Elle ne connaît surtout pas les usages sociaux, mais elle s'en sort toujours bien au final. Et puis surtout, elle adore les enfants et on aime son empathie. Mais elle est quand même mal vue chez les militants bretons, notamment dans les années 70, parce qu'il y a des préjugés de type colonial à l'égard de la province qui sont ressentis. Et c'est pas tout à fait faux.
Mais au départ, c'était un peu moqueur pour les Bretons, mais en vrai, elle était très sympathique et c'est ce que tout le monde a aimé.
Très sympathique, puis elle monte un peu en grade parce qu'elle va aider sa patronne, donc finalement, elle devient beaucoup plus importante qu'elle n'était au départ. Elle est un peu plus que la simple bonne d'enfant du départ.
D'accord. Alors Nathalie Elal, vous êtes décidément très forte puisque vous avez réussi à nous trouver en Bretagne une femme corsaire.
Oui, alors on dit souvent que les Bretonnes ont du tempérament, eh bien Jeanne de Belleville, surnommée la lionne sanglante.
La lionne sanglante.
Oui, à cause de sa cruauté. C'est une histoire incroyable mais vraie entre amour, haine et flibusterie. Alors Jeanne est issue d'une famille noble, c'est une épouse, une mère de famille comblée. Elle est mariée à un certain Olivier de Clisson. Mais nous sommes en 1341, il y a une guerre de succession en Bretagne et son mari a pris le parti de ce qu'il fallait pas, c'est-à-dire qu'il soutient le roi Édouard III d'Angleterre. Alors, un jour, son mari est invité à un tournoi. En 1343, il se rend à Paris et c'est un guet-apens parce que les partisans de Philippe de Valois, donc l'ennemi juré d'Édouard III d'Angleterre, vont s'emparer d'Olivier de Clisson, le font décapiter. Sa tête est fichée sur une pique, envoyée à Nantes, exposée en place publique. Et Jeanne de Belleville vient contempler la dépouille de son mari. Elle est folle de douleur, folle de rage. Et elle fait le serment à ses deux enfants, à ses deux fils, de venger leur père. Et là, elle passe du côté obscur de la force.
Mais que va-t-elle faire ?
Eh bien, elle est soutenue par de nombreux seigneurs bretons. Elle vend tous ses biens. Elle achète un bateau pour mener ce qu'on appelle des guerres de course. En fait, c'est une expression qui désigne les opérations navales des corsaires contre les navires français et pour nuire au roi de France. Donc elle va armer d'abord un bateau direction l'Angleterre pour rencontrer Édouard III qui va lui donner 3 vaisseaux de guerre. Et savez-vous comment elle baptise le sien ?
Je sais pas.
Vengeance ! Revenge ! Et durant plusieurs années dans
la
Manche.
La couleur, hein.
Ah oui, tout est clair. Elle va arraisonner de nombreux navires de commerce français et même des navires de guerre. Elle va massacrer les équipages vaincus. Elle va trancher elle-même à coups de hache les têtes en souvenir de son mari. Évidemment, ça va.
Elle était costaud, alors.
Moi, j'adore les sacrées bonnes femmes. Hein. J'adore. J'ai trouvé un personnage magnifique, là. Alors, ses exploits, évidemment, finissent par excéder Philippe VI en personne qui va ordonner sa capture. Elle se retrouve finalement encerclée, toujours en mer, hein, bien sûr. Elle abandonne assez lâchement, faut bien dire, son équipage. Elle s'enfuit dans une chaloupe avec quelques hommes. Et
elle abandonne tout le monde.
Elle abandonne tout le monde, sauf ses fils. Malheureusement, son fils cadet meurt au bout de quelques jours. Elle va s'échouer près de Morlaix. Et puis heureusement, elle est récupérée par des partisans. Donc elle reste libre, elle n'est pas captive. Mais elle est quand même ruinée, bannie du royaume de France. Elle va se réfugier à la cour d'Angleterre, épouser un noble. Enfin, tout va bien quand même. Elle rentre en France et finit sa vie là-bas, hein, en Bretagne, en 1359. Mais elle n'aura pas réussi à récupérer ses titres et certaines de ses propriétés. Donc finalement, elle a perdu pas mal de choses.
Ouais, enfin, elle s'en sort pas trop mal.
Ouais, c'est que matériel.
Ouais, enfin bon, c'est un peu flippant, mais j'en ai une encore plus flippante. Si j'avais eu le temps, ça aurait été génial. Mais on
allez-y. Bon, une autre bretonne.
C'est la serial killeuse bretonne, Hélène Jégado, qui a tué quand même à peu près 97 personnes. Elle les a empoisonnées. Elle était cuisinière. Voilà.
Ah bon, mais pourquoi les a empoisonnées ?
Eh bien, parce qu'elle était cuisinière, elle empoisonne à l'arsenic.
Et pourquoi ?
On ne sait pas, on n'a jamais compris le mobile. En tout cas, c'est la céréale killeuse bretonne et puis peut-être la plus grande céréale killeuse mondiale.
Ah oh.
Oui.
Bon, très bien. Merci beaucoup Nathalie Hélal. Dans un petit instant, la Bretagne vue par Emmanuel Jarry, notre gourmande sur Europe 1.
16h, 18h, et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Tous les jours sur Europe 1, nous voyageons tranquillement, paisiblement, par monts et par vaux. Tout à l'heure, à partir de 17h, je vous emmènerai au Cambodge. Et là, tout de suite, nous sommes en Bretagne avec Emmanuel Jarry, qui va nous raconter la Bretagne gourmande.
Oui.
Qu'est-ce que vous nous avez trouvé ? Je sais pas, je m'attendais à ce que vous parliez de la crêpe saucisse.
Non.
Et
non, parce que j'avais envie de vous parler de choses qu'on connaît moins.
Ah oui ?
Et en fait, je voulais vous
parler... une bonne crêpe saucisse, c'est pas mal.
Je dis pas que c'est pas bon, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est bon, il faut la manger, on est sur place,
et
voilà.
Puis voilà.
Voilà. On va au marché le matin, et après avoir fait les courses, on mange une galette saucisse. Ça, j'adore, c'est vrai, avec un petit bolet de cidre. Mais je vais vous faire découvrir des produits un peu plus confidentiels, et notamment le curry breton, le carigos.
Le carigos ?
Ouais, le carigos, et je crois que c'est le seul curry hexagonal, non pas français, mais hexagonal. Ouais. Alors, justement, je fais un tour de table. Est-ce que quelqu'un connaît ce curry autour de la table ?
Je connais la feuille de curry, mais qui est aussi,
oui.
Qui est aussi utilisée
un peu de là,
comme une épice. Est-ce que c'est, oui, c'est lié
oui, il y a un
ça.
Rapport. Oui, oui, il y a un rapport enfin, avec les épices.
Moi, je
l'ai
goûté dans les restaurants.
Ah,
bretons.
Voilà, ouais. D'accord. Et en fait, je l'aime beaucoup.
Moi, je ne connais pas.
Vous
ne
connaissez pas. Je ne vous ai même pas demandé, Philippe, c'est vrai, pardon. Non, c'était surtout la réponse de Nathalie. Je sais qu'elle connaît beaucoup la gastronomie qui m'intéressait. Alors moi, je l'aime beaucoup, ce carigos, parce qu'il nous fait voyager dans le temps. Il raconte les grandes routes maritimes à l'époque de la Compagnie des Indes orientales au XVIIe, lorsque les bateaux partaient de Port-Louis, l'actuel Lorient, vers les comptoirs indiens de Chandernagore et de Pondichéry. Okay. Et il rapportait ces bateaux de la soie, de la porcelaine et des épices. Et au XIXe siècle, il y a un apothicaire, M. Gosse, qui a créé un mélange d'épices qui est toujours tenu secret. frais, dans ses proportions, mais on sait la composante. Il y a du piment, il y a du gingembre, de la cannelle, du clou de girofle, du curcuma. Et il a baptisé ce produit le curry Goss. Curry, c'est le nom qu'on donne au curry en Inde. Et Goss, c'était son nom de famille. Ah. Et donc aujourd'hui, il y a un de ses descendants qui continue de fabriquer cette poudre. Et on l'achète encore dans les pharmacies à Lorient ou à Auray. Et ça, je trouve ça amusant parce que, qu'il soit vendu en pharmacie. Parce que les épices étaient utilisées autrefois dans la pharmacopée. C'était une médecine.
Mais on en fait quoi aujourd'hui alors?
Eh bien, alors, c'est pas du tout pour soigner. Hein, encore que je dis toujours ça parce que la cuisine, c'est un médicament pour l'âme et pour l'esprit et pour le corps aussi. Donc, on l'utilise surtout en cuisine pour des préparations à base de poisson. Moi, j'aime beaucoup le mettre dans les moules à la crème, mettre un peu de poudre de curry, en fait, hein, ce curry.
La mouclade aussi.
Voilà, la mouclade. Et aussi avec le homard. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le homard, c'est maintenant, hein, c'est la pleine saison. On a toujours tendance à le manger au moment des fêtes de Noël pour fêter voilà, la fin d'année. Alors que pas du tout, parce que 60 à 70% des captures se font l'été.
Ah,
et donc la conséquence...
C'est moins cher ?
Eh ben oui, parce qu'il y en a plein.
Okay.
Donc on peut en manger beaucoup. Et puis surtout, bah, les pêcheurs les pêchent, donc il faut quand même les manger. Et ils ont fait un beau travail de préservation de la ressource avec une pêche responsable. Ils avaient pas mal disparu il y a une trentaine d'années, les homards, et maintenant ça revient. Donc ils pêchent au filet ou au casier. Il y a une taille réglementaire quand on l'achète sur les marchés, c'est 8,7 cm, ce qui correspond à peu près à un homard de 7 ans. Et ça, c'est très important de respecter.
7 ans quand même, il a déjà.
Ouais. Bah oui. Et alors après, la deuxième grande question qu'on se pose, c'est comment tuer le homard?
Alors ça, soit, non, voilà, ça j'aime pas.
Soit on le jette dans l'eau bouillante, soit on le tranche en deux.
Non.
Alors, on le tranche en deux. Si, ah bah oui. Ou alors on le laisse dans l'eau, on le repose.
Non, mais on le regarde.
Voilà, on le tranche.
Je fais une petite parenthèse, mais quand j'ai commencé à faire des reportages pour la télévision, j'ai fait un reportage sur une dame qui s'était prise d'affection pour les homards et elle allait choisir des homards dans les poissonneries. Celui qui la regardait dans les yeux, bah, elle l'achetait et elle allait le libérer dans la mer.
Oui. Alors ça, c'est intéressant parce que j'ai un ami, c'est son rêve avec les poules. Donc j'espère qu'il nous écoute. Il rêve de libérer les poules. Ben non, mais je peux comprendre ça. Alors c'est vrai que le homard, bon, ben, si on a décidé de le manger, il faut le trancher. Il faut donner en fait un coup de couteau bien fermement dans le cerveau parce que c'est un animal sensible. Hein, il
comment
souffre.
Comment reconnaît le cerveau du homard?
Ah ben, c'est dans la tête.
Oui.
Enfin, vous voyez, pardon, je dis dans le cerveau, mais en fait dans la tête. Et il y a une firme anglaise, par exemple, qui a inventé une machine pour électrocuter les homards, un peu une genre de chaise électrique pour les homards. Donc, ben non, mais c'était pour leur éviter la souffrance. Et en fait, moi, je pense toujours à cette phrase de Gandhi qui dit « On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux », et je suis d'accord avec
c'est
ça.
C'est pas faux.
Et donc, voilà, on coupe, on le jette surtout pas dans l'eau bouillante.
Alors, si on veut pas le faire soi-même, tout ça?
Alors, on va au Macareux, à Landrelec, dans les Côtes d'Armor. C'est un petit restaurant qui est au bord de l'eau. Et en fait, là, il y a une carte spécialisée avec que des... beaucoup de homards. Il y a 7 plats homards. Il y a le homard grillé au beurre de corail flambé au cognac. Moi, je l'ai goûté, c'est absolument délicieux. Et surtout, il est prédécortiqué parce que souvent, quand on va au restaurant, c'est la crainte qu'on a. On se dit, oh là là, comment je vais m'en sortir? Je ne prends pas le homard, j'ai peur. Là,
bah, c'est vrai, oui, c'est compliqué.
Donc là, le chef, il est super. Il prédécortique. Il y a les ravioles de homard à la chair de tourteau. Et si vraiment...
Bon,
ouais, oui, c'est délicieux. Si on veut se faire un shoot de homard, on prend la bisque de homard à la chantilly parfumée à la bisque. Donc là, c'est un concentré, une explosion
en bouche.
Ouais, c'est vraiment formidable. Et alors, j'aime beaucoup ce restaurant parce que c'est un petit établissement familial, très soigné. Il y a le chef qui est en cuisine et sa femme en salle. Et donc voilà, à l'intérieur, il y a une cheminée. S'il fait un peu frais à l'extérieur, ce qui arrive parfois en Bretagne, même l'été. Et puis sinon, les jours de grand soleil, il y a une belle terrasse. Donc on est sur la presqu'île de Landrelec, au bout de la terre. On sent qu'on est arrivé au bout de quelque chose. Après, il y a la mer. Donc voilà, au programme, vous avez un homard, un coucher de soleil. Et puis si vous avez un flacon de curry Goss dans la poche, vous l'ouvrez, vous respirez un petit peu la poudre de curry et puis après...
Ah, parce que ça se sniffe.
Bah, moi j'aime bien.
On est dans le shoot.
Je trouve que les odeurs, c'est toujours très évocateur. Et donc voilà, vous sentez cette
Emmanuel.
Poudre de curry, quelques verres quand même de cidre en plus et beaucoup d'imagination. Et vous allez voir les
tous
caravelles
les
de la Compagnie des Indes qui passent au loin.
Sûr.
Et là, c'est un formidable
c'est
moment.
Bon, très bien. Quoi d'autre? Le pain des Abers, c'est ça?
Le pain des Abers. Alors là, c'est encore une histoire de bateau et de lointain. On est dans le nord du Finistère, tout au bout. Hein, la Finistère, là où finit la terre. Dans les Abers, c'est ces anciennes vallées fluviales, comme des petits fjords, pas très profonds. Ouais. Il y en a trois. L'Aber-Île-Dut, vous
magnifique.
Les connaissez, hein, Jean-Bernard.
Magnifique.
L'Aber-Benoît et l'Aber-Vrac. Et à Lannilis, entre l'Aber-Benoît et l'Aber-Vrac, il y a un boulanger, Michel Isard, qui fait le pain des Abers. Alors, c'est des très grosses miches de pain qui sont cuites trois fois pour épaissir la croûte et que la mie reste moelleuse à l'intérieur.
Ouais.
Et parce que ce pain met beaucoup de temps à rassir, eh bien, les marins qui partent pour le Vendée Globe ou la Solitaire du Figaro vont l'acheter et l'emportent avec eux.
Ah bon, ça met combien de temps avant d'être dur?
Plusieurs semaines, j'imagine.
Ah ouais.
Ouais. En fait, il les a cuits exprès pour ces longues traversées.
Ouais, et là, donc, c'est un shoot de pain, là.
Oui, voilà, c'est ça. Non, mais vraiment, il a travaillé son pain pour ça. Il travaille en plus avec des souches de levain qu'il a depuis 20 ans. Donc, c'est vraiment un artisan passionné. Pour moi, c'est un des meilleurs boulangers de France qui travaille encore au beurre, etc. Il a des kouign-amann extraordinaires, croustillants, voilà, à l'extérieur,
ça,
et puis bien
bon.
Beurré et sucré à l'intérieur. Ah, c'est ouais. Absolument délicieux.
Merci beaucoup, Emmanuel. Dans un tout petit instant sur Europe 1. Tous les bons plans, les bons tuyaux, les bonnes adresses de Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Mais tout de suite, pour souffler un petit peu, Gregory Porter, Revival sur Europe 1.
Europe 1, Philippe Googler.
Nous voyageons, nous sommes en Bretagne. Alors, la Bretagne, c'est magnifique, il y a 10 000 endroits fantastiques. Donc on va où quand on y va, Jean-Bernard?
Bah écoutez, je vous emmène dans l'intérieur des terres, parce que moi, ce que j'aime en Bretagne, ce sont les montagnes.
Oh. Ah, les montagnes en Bretagne?
Oui, je suis sérieux, Philippe, je maintiens mon propos. En Bretagne, ce qui m'a frappé, ce sont bien les montagnes.
Il a abusé du cidre.
Vous êtes allé où?
Alors, je suis allé dans les monts d'Arrée. Voilà, c'est dans le centre du Finistère. Ah, ouais. Certes, l'altitude maximale n'est que de 385 mètres, autant dire dans le reste de la France, on prendrait ça pour des petites collines. Eh bien pourtant, dans ces monts d'Arrée, il y a un esprit montagnard qui vous coupe du reste de la Bretagne. Malgré la faible altitude, on est dans un vrai décor de montagne. Il n'y a pas de pic, tout est arrondi, mais on a c'est fascinant, on a cette ambiance qui se dégage, ce paysage impressionnant, presque irréel. Des landes pelées, des petites crêtes de schiste en lames de couteau, parallèles les unes aux autres, c'est assez aride. Et on est saisi par l'ambiance mystérieuse et fantastique qui émane de ce lieu, surtout le matin à l'aube avec des beaux jeux de lumière, une lumière rasante, des écharpes de brume qui se dissipent lentement à mesure que le vent se lève. C'est ça l'ambiance des Monts d'Arrée. C'est d'ailleurs pas étonnant que ce soit une terre de légende qui a alimenté l'imaginaire, ouais. Justement. Quand on fait une balade dans ce massif, on se demande si on ne va pas surprendre une assemblée de druides en pleine cérémonie.
C'est vrai
bien
qu'il y a
peut-être.
Un côté mystique, il y a un côté mystérieux.
Il y a des vibrations, vous avez
vraiment...
parlé d'énergie, de
vraiment,
vibrations.
Ouais,
c'est, les Monts d'Arrée, pour moi, c'est le bastion de ces vibrations-là. Tout sort de là, on se demande s'il n'y a pas des korrigans, ces petits diablotins qui vont surgir d'un bosquet de landes venus du fond des âges, venir vous narguer. Peut-être croiserez-vous d'ailleurs, au lieu d'un korrigan, la fameuse Ankou dont on a parlé, la faucheuse, symbole de la mort, parce qu'il semblerait, selon la légende, qu'elle soit originaire d'une cuvette au fond de ces monts d'Arrée qu'on appelle la porte de l'enfer.
La grande faucheuse serait là-bas.
La grande faucheuse, l'Ankou. L'Ankou
c'est
breton.
Comme ça que vous nous invitez à y aller.
On a parlé d'ambiance, si vous voulez, une ambiance bretonne, celle-là, elle est caractéristique, elle est typée, elle est forte, elle est savoureuse.
Ouais, c'est vrai, c'est assez incroyable cet endroit. Et dans l'intérieur des terres, il y a un autre endroit que vous aimez?
Il y a un autre endroit que j'aime beaucoup qui s'appelle l'île de Pâques bretonne. Vous voyez, on reste vraiment dans la mystique là.
Ça, c'est Carnac.
Eh bien non, c'est pas Carnac, Philippe.
Non.
Je vous déçois aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un site beaucoup plus contemporain, puisqu'il y a à peine une dizaine d'années qu'il a été réalisé. Ça s'appelle la vallée des Saints. Dans les Côtes d'Armor, au sud de Morlaix. Nathalie, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, cette vallée, c'est un projet unique en son genre, un projet culturel.
Oui, mon petit Corrigan, oui, ça me parle.
Un projet culturel et insolite, comme je les aime bien. C'est un mélange de passé et de futur, de culture et d'art, de légende et de réalité.
Et qu'est-ce que c'est?
C'est une œuvre artistique en plein air. Ce sont d'énormes sculptures en granit qui font 3 à 4 mètres de haut sur une colline. Et ces sculptures représentent des saints bretons. Vous savez que les saints bretons sont très importants dans la culture populaire. Saint-Malo, Saint-Brieuc, Saint-Quay-Portrieux, etc. Pour l'instant, il y a moins d'une centaine de sculptures qui ont été réalisées. C'est une œuvre en mouvement, c'est dynamique, c'est un projet évolutif. Chaque année, il y a d'autres statues qui viennent s'ajouter aux existantes. Et vous pouvez voir justement les sculpteurs à l'œuvre sur le terrain, en ce moment, en train de sculpter ces fameuses statues qui font 4 mètres, qui justement, quand on les voit de loin, font penser aux statues de l'île de Pâques. Voilà la parenté, la similitude.
Et combien il va y en avoir au total?
C'est prévu qu'en 50 ans, on en fera plus de 1000.
1000.
Ça sera le plus grand lieu de land art. Le land art, c'est l'art en plein air. Ça sera le plus grand lieu de land art au monde.
Mais ça a commencé quand?
Ça a commencé en 2008.
Voyez, on en a une dizaine d'années. C'est vraiment aussi saisissant qu'à l'île de Pâques.
C'est vraiment impressionnant. On est aussi sur un lieu très chargé, comme les Monts d'Arrée, sur une colline herbue, une très belle vallée en contrebas, la vallée du Poer. C'est très impressionnant. Il y a aussi ces énergies.
Ouais. Alors, la Bretagne, on le dit rarement, mais c'est une quantité d'îles impressionnante. Il y en a plus de 1000.
Ouais.
C'est 70% des îles françaises sont en Bretagne.
Alors, ma préférée, comme vous donnez ma préférée, c'est l'île de Saint au large de la Pointe du Raz, parce qu'elle est restée encore une fois très authentique, elle a gardé son âme. C'est une île qui vibre. L'arrivée simplement sur l'île de Saint est elle-même une vraie démarche de voyage. Une heure de traversée seulement depuis Audierne avec la compagnie locale, la Penarbed, c'est une expérience, parce que vous allez longer des falaises déchiquetées, vous allez passer la Pointe du Raz, Et vous allez voir, juste avant d'arriver sur l'île de Sein, les fameux ligneurs. J'adore ça, les pêcheurs de bar dans ces grosses vagues creuses. C'est vraiment impressionnant.
C'est dangereux aussi.
C'est très dangereux. Voilà. Il y a une superbe ambiance maritime. Et justement, pour renforcer cette ambiance-là, vous avez la possibilité de faire une excursion en mer depuis l'île de Sein. En Zodiac, un bon gros Zodiac de 400 chevaux pour tenir les grosses vagues de la chaussée de l'île de Sein. Cette mythique chaussée de l'île de Sein qui est souvent le siège de très fortes tempêtes. Et vous pourrez voir un banc de grands dauphins. On est sûr de les croiser. Ils approchent le bateau, ils jouent avec les traves.
Des dauphins, on est sûr de les croiser.
Et on est sûr de les voir dans ce lieu-là, dans la chaussée de l'île de Sein. Donc juste derrière l'île de Sein, dans ce lieu mythique avec des grosses vagues puissantes. Et franchement,
on ne peut pas nager avec eux, il y a trop de vagues.
Non, pas dans la chaussée de l'île de Sein. Et ce qui est génial, c'est que les marins qui conduisent ce bateau sont vraiment très expérimentés. C'est des jeunes du coin, ils connaissent la chaussée de Sein et le rat de Sein comme leur poche. Ils vous raconteront des légendes aussi, pas simplement l'observation des dauphins, mais ils vous raconteront toute l'histoire de l'île de Sein. Ça, c'est vraiment mythique.
Ah, d'accord. Et alors, sur l'île de Sein elle-même, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Il faut s'imprégner de l'ambiance insulaire, justement. Alors, il y a un bar mythique, un bar de loup de mer. C'est l'ancien chez Brigitte, qui s'appelle maintenant le QG. Il a changé de nom il n'y a pas longtemps. C'est vraiment le lieu de rendez-vous de tous les Sénans. Et vous êtes les bienvenus en tant que touristes. Vous pouvez vous mêler à cette ambiance-là, boire un petit verre avec eux.
Et les gens sont sympas, c'est vraiment
super ambiance, c'est super chaleureux. On parle breton, d'ailleurs. C'est aussi un lieu où on parle encore le breton. Donc, il y a des animations chaque soir. Vous pouvez vous balader aussi autour de ce bar. C'est le point de rendez-vous. Allez-y, franchement, si vous êtes à l'île de Sein.
D'accord. Et alors, si on veut s'initier à la voile, est-ce que c'est une bonne idée d'aller le faire en Bretagne ?
Ah, c'est la destination par excellence pour s'initier, surtout dans l'archipel des Glénans. C'est la référence mondiale, c'est la plus grande école de voile d'Europe. Elle a été fondée en 1947. Tous les grands noms y ont tiré leur premier bord. Je vais citer Franck Camas, Vincent Rioux, Montfontois. Vous avez une possibilité de vous initier, quel que soit votre niveau. Vous pouvez être un parfait débutant ou déjà très expérimenté. Il y en a vraiment pour tous les niveaux. Et puis au Glénans, j'ajoute, c'est aussi un lieu magnifique pour faire de la voile, parce qu'on se croirait dans un atoll de Polynésie. L'eau, elle est translucide. Il y a vraiment des ambiances incroyables. L'eau, elle est translucide et turquoise en plus.
Ah, magnifique. Juste un petit conseil. Moi, je rêverais de dormir dans un phare un jour.
Eh ben, c'est possible. Je vous donne l'adresse de ce phare. C'est le phare de Kerbel.
C'est vrai ?
Tout près de Lorient, 25 mètres de haut. Alors, il faut quand même monter 120 marches, Philippe. Ça vous ira quand même ?
Oui, je vais m'entraîner.
Alors, quand vous serez en haut, vous aurez une vue panoramique sur la presqu'île de Quiberon, la baie de Lorient, et vous aurez l'impression d'être coupé du monde.
Ah,
c'est quand même 650 euros la nuit pour deux.
Voilà. 650 ? Ah oui, c'est un budget. Il ne faut pas seulement s'entraîner, il faut économiser longuement.
Il faut y penser à l'avance.
Merci beaucoup Jean-Bernard. Dans un instant, après le flash de 17h sur Europe 1, nous partirons pour un pays passionnant par les émotions qu'il dégage. On se baladera dans la jungle au milieu de la cité perdue d'Angkor. C'est un moment, je vous assure, qu'on n'oublie jamais. Nous irons à Phnom Penh, la capitale qui est vraiment à part dans le monde asiatique. Et puis on rencontrera les Cambodgiens qui sont d'une gentillesse extrême. A tout de suite sur Europe 1. Et si on partait deuxième heure sur Europe 1, c'est l'été, c'est donc le moment idéal pour lâcher prise. Tous les après-midi, je vous emmène pour un grand voyage et nous allons partir maintenant pour un pays fascinant, le pays des cités perdues dans la jungle, des rizières calmes, plates, à l'infini dans les campagnes, des îles paradisiaques. Je vous emmène au Cambodge, décollage maintenant.
16h, 18h, et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Alors, au Cambodge, je voudrais vous emmener sur le plus grand lac d'eau douce de toute l'Asie du Sud-Est. C'est un lac différent sur lequel sont posées des maisons flottantes, mais des maisons par milliers, des cités entières sur l'eau. C'est un monde à part. Je vous emmène sur le Tonlé Sap. Alors pour aller explorer ces villes flottantes sur le Tonlé Sap, il faut prendre un petit bateau sur le bord du lac et il va emprunter des rues, des véritables artères nautiques entre les maisons flottantes. Et autour de moi, j'ai comme ça des maisons en bois colorées avec des belles couleurs qui sont comme de gros radeaux posés sur l'eau entre lesquels circulent donc sans cesse des dizaines de bateaux chargés de toutes sortes de marchandises ou même d'habitants de la ville qui se déplacent. Et il y a de tout. Vous avez des épiceries flottantes, un coiffeur flottant, une église flottante, une école avec la cour de récréation flottante. Il y a un chantier pour réparer les bateaux. C'est une vraie ville avec tout ce qu'il faut. Et c'est principalement une ville de pêcheurs. Donc quand vous passez devant les maisons, vous en voyez beaucoup en train de repriser leurs filets.
et d'autres qui font la vaisselle sur le devant de la maison dans l'eau du lac. Mais ma vraie surprise, ce que j'ai vu de mes yeux, c'est un des habitants en train de tracter sa propre maison au bout d'une corde à dos d'homme. Donc il est dans l'eau, il a de l'eau jusqu'à la poitrine. Et on dirait vraiment qu'il veut déplacer sa maison d'une bonne centaine de mètres. Alors, je m'approche comme ça depuis le petit bateau-taxi. Et je lui dis, mais ça va, c'est pas trop difficile. Et il me répond, tout en tirant sa maison, ben si, quand il y a du vent, c'est quand même un peu dur. Parce que ça freine. Et donc je lui dis, mais vous la déplacez régulièrement? Bon, ça dépend, ça peut monter jusqu'à deux fois par jour. Mais en gros, c'est une fois par semaine. Ah, j'en reviens pas. Et je dois vous expliquer un truc quand même. C'est que, en fonction des crues du Mékong, le niveau du lac varie énormément. C'est un peu comme si le lac se gonflait et se vidait. Sa profondeur, à certains endroits, peut varier de 1 mètre à 9 mètres. Et sa surface peut être multipliée par 6. Autrement dit, si vous ne faites pas attention, votre maison flottante, elle peut très bien se retrouver rapidement à sec et s'échouer sur un rocher. Donc il faut la déplacer régulièrement pour lui trouver un emplacement sûr à cause du niveau d'eau, mais aussi à l'abri d'un coup de vent, à l'abri de vagues, parce que le temps change aussi et la météo compte. Donc il faut la déplacer, l'amarrer, ne pas gêner les voisins d'une manière ou d'une autre. Bref, c'est tout un boulot, une maison flottante. Et donc je demande au gars qui déplaçait sa maison, mais alors, est-ce que parfois vous la déplacez juste parce que vous avez envie de changer de voisin? Et là, il rigole et il me dit « Oui, ça m'arrive, parce que quand le voisin fait trop de bruit ou alors quand il est trop saoul, eh ben, je vais m'installer ailleurs. » Et donc, il continue dans un grand éclat de rire et il est incroyable, il est trempé, il a dû plonger sous l'eau plusieurs fois pour essayer d'attacher la corde, d'amarrer sa maison. Tout ça a l'air particulièrement pénible et pourtant, il garde le sourire, comme souvent au Cambodge. Une fois l'opération terminée, il m'explique un peu la vie sur le lac et il me dit, vous savez, on est comme une famille, on vit ensemble. Les gens sur le lac s'entraident énormément, mais ce que j'aimerais, c'est que tout le monde prenne soin du lac. Il y a des gens qui gênent beaucoup trop de déchets dans l'eau. Et en plus, le niveau de l'eau, il est toujours plus bas et c'est peut-être à cause du changement climatique. Et il rajoute avec ce grand sourire cambodgien, si on fait tous des efforts, si on prend soin du lac et de l'environnement, je suis sûr que tout ira mieux. Il y aura plus de poissons, on sera un peu moins pauvres et on sera plus heureux.
Europe 1, 16h-18h. Et si on partait? Philippe Googler.
Encore plus de Cambodge dans quelques instants sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h. Et si on partait? Philippe Googler.
Nous sommes partis au Cambodge, ça y est. Un pays fantastique, moi j'aime vraiment beaucoup. Je suis avec tous mes amis voyageurs, Nathalie Elal, Emmanuel Jarry et puis Jean-Bernard Carrier du Guide Lonely Planet. Le Cambodge, donc, on sait que c'est en Asie, là-bas à l'Est. Vous pouvez préciser un petit peu?
Oui, on va quand même mentionner qui sont ses voisins. Ça permettra encore mieux de le repérer sur la carte. Il est voisin de limitrophe de la Thaïlande, du Laos et du Vietnam. Mm-hmm. C'est un pays assez petit, en fait, à seulement un tiers de la France métropolitaine.
Ouais, donc c'est,
ça se visite en 10 jours. Vous pouvez voir déjà beaucoup de choses sur place. Deux grandes caractéristiques géographiques. Le fleuve Mékong.
Oui.
Et le lac Tonlé Sap dont vous venez de parler. Ça, c'est vraiment les deux grands aspects majeurs de ce pays. Et puis, j'ajoute quand même un troisième, il ne faut pas oublier, il me tient à cœur aussi, celui-là, c'est une façade littorale qui donne sur le golfe de Thaïlande avec de belles stations malaires, dont on parlera tout à l'heure, ouais. Et des petites îles bien sympathiques.
Et des petites îles paradisiaques, on ne le dit pas souvent au Cambodge.
Oui.
C'est vrai. Nous sommes en direct avec Laurent Holdener. Il est français d'origine cambodgienne. Il est installé à Siem Reap, à côté de Angkor, depuis 1996. C'est le fondateur de l'agence Terre Cambodge. Bonjour Laurent.
Oui, bonsoir. Bonsoir Philippe.
Alors, vous me dites bonsoir parce qu'il est quelle heure là-bas au Cambodge?
Ah oui, il est déjà 10 heures. Hein. Ah ouais. On a 5 heures de décalage par rapport à la France.
Bon, ça va, vous tenez le choc encore?
Oui, pas de souci.
Alors, vous avez grandi en Europe et lors de votre départ vers le Cambodge, je crois que ce qui vous animait, c'était l'aventure, l'idée de partir à la recherche des temples, des cités perdues, des ruines dans la jungle, de faire un peu votre Indiana Jones, c'est ça?
Oui, tout à fait. C'est la notion de découverte, d'aventure, de forêt tropicale, de pierres perdues dans cette jungle qui m'a beaucoup attiré. Indiana Jones, le livre de la jungle, toutes des images qui m'étaient restées quand j'étais petit. Et donc, j'ai décidé de partir dans ce pays pour partir à l'aventure et découvrir certains temps perdus sur ce territoire cambodgien.
Et alors, est-ce que vous en avez trouvé ? Comment c'était l'ambiance ?
C'est mystérieux, très nouveau pour moi. C'est un pays où il y a quand même très peu d'habitants, donc une nature qui est très présente. Et c'est cette alliance entre l'archéologie, l'histoire ancienne et la nature, les arbres, qui m'a vraiment fasciné. Et pour ça, il faut prendre son sac à dos, marcher, prendre son hamac moustiquaire et partir dans les montagnes, parce que souvent c'est dans les anciennes capitales qu'on trouve ces temples-là, qui sont répartis sur le territoire. C'est dans ces montagnes qu'on peut trouver ces bâtisses.
Alors je peux vous demander de faire silence un tout petit instant. On va écouter le son derrière vous. Est-ce qu'on entend les... Ah, j'avais l'impression qu'on entend... Et si ? On entend un peu la forêt.
On entend...
On entend le son de la forêt derrière. Il y a un truc...
Oui, je suis à la campagne, donc il y a les grenouilles, les criquets, ouais. C'est très calme en ce moment, et on est au début de la mousson, ouais. Donc les pluies, ça apaise les âmes, et on est tranquille chez soi.
Alors moi, c'est vrai que le Cambodge, qui est absolument extraordinaire, c'est ces temples dont vous parlez, il faut imaginer des ruines, c'est la cité perdue, c'est comme dans les rêves, si on parle aussi d'Angkor, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est des cités qui sont enfouies dans la forêt depuis des siècles, et qui ont été gagnés par la nature. Et vous avez des arbres qui font corps avec les vieilles pierres. On ne sait plus qui tient qui, si c'est l'arbre qui tient le temple ou si c'est le temple qui tient l'arbre. Et c'est totalement envoûtant. C'est comme une œuvre d'art un peu créée par l'homme et la nature. Moi, je le vois ça comme ça. C'est magnétique.
Oui, en effet. Alors, il y a les fameux temples d'Angkor, patrimoine UNESCO, mais il y a énormément d'autres anciennes capitales qui commencent du 7e siècle et qui finissent jusqu'au 14e, qui sont majestueuses. Et donc, c'est la possibilité de partir, de s'aventurer là-bas. C'est une découverte vraiment unique et qui est très peu visitée parce que le pays a quand même eu beaucoup de retard au niveau du développement, donc très peu d'infrastructures routières, très peu d'accès. Donc c'est la notion d'aventure qui est toujours présente.
Donc ça, on peut encore le vivre, parce que il faut dire qu'encore, il y a quand même beaucoup de monde aujourd'hui qui y va, mais on peut vivre un peu la même chose dans d'autres lieux.
Oui, tout à fait. Pas loin d'ailleurs d'Angkor, il y a une montagne sacrée qui s'appelle les Phnom Kulen, qui est une ancienne capitale du 9e, où vous avez de très vieux villages ancestraux mélangés avec de la forêt tropicale. Donc c'est une montagne qui culmine, alors pour nous, respect, hein, ça culmine à 500 mètres. Alors le Cambodge, c'est la Hollande asiatique. Hein. Ouais. Le sommet est à 1800 sur les bordures du pays, mais au centre, on arrive à des collines pour vous, mais des montagnes sacrées pour nous. Souvent, malheureusement, c'était aussi les anciens fiefs des anciens Khmer Rouges, donc ouais. Très peu de développement et donc une population des gens d'une très grande gentillesse et qui côtoient en fait ces temples depuis toujours, qui jouent depuis gamin dans ces pierres. Ouais. Et voilà, ça c'est une mes grandes passions de pouvoir les découvrir et aussi de les proposer à d'autres.
Ouais. Et c'est vrai que les Cambodgiens ont un naturel, j'aime pas faire des généralités sur les peuples, mais là franchement il y a une gentillesse naturelle, spontanée, qui est vraiment très très touchante dans ce pays. On va continuer à découvrir le Cambodge dans un tout petit instant avec vous. Il y a encore beaucoup beaucoup de choses à raconter sur ce pays. À tout de suite.
16h, 18h, et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait, vous l'avez compris, nous sommes au Cambodge, au cœur du Cambodge. Et je dois vous dire un truc quand même, c'est que quand les Cambodgiens passent à table, c'est quand même plutôt piquant. Parce que si vous faites un peu les marchés, vous allez voir des drôles de choses sur les étals. Il y a des tas de petites bestioles à manger. Alors au début, c'est un petit peu surprenant. Et surtout quand on sait que la bestiole la plus prisée, c'est la tarentule. Donc quand j'ai vu ça sur les marchés, je me suis dit, bon, je ne vais pas la manger tout de suite, mais en revanche, je vais essayer de rencontrer un chasseur de tarentules. Donc, quand on se dit, je vais rencontrer un chasseur de tarentules, on s'attend à tomber sur un solide gaillard, un aventurier de la jungle, un costaud, un gars entraîné à la morsure venimeuse. Et alors, quand j'arrive dans la maison des chasseurs, eh ben, c'est pas du tout ça. C'est une petite ferme, tranquille, ça rigole dans la cuisine, il y a une petite odeur de poulet grillé. Il y a la maman qui cuisine, et à 15 mètres de là, dans le jardin, il y a le chasseur de tarentules. Et c'est le papa, décontracté, avec ses deux enfants, en tong, en train de chercher tranquillement des tarentules au milieu des herbes folles. Parce que là-bas, il y a des tarentules comme il y a des grillons chez nous. Hein. Il y en a partout. Et il cherche ça, mais vraiment hyper relax. Donc je lui dis au papa, je lui dis, mais alors votre jardin, il est infesté de tarentules ? Il m'a dit, bon, ben oui, 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 il y en a là, tout autour, regardez. Ça, de toute façon, ça risque rien, elles sont dans leurs trous. Et c'est vrai que sous les broussailles, vous avez des petits orifices d'environ 5 cm de diamètre. Et ce sont les terriers de la tarentule. Alors, le principe pour les attraper, c'est que le papa prend un petit bâton et il va gratter au fond du terrier. Il cherche un peu comme ça et il récupère une sorte de gros cocon mou et blanc. Alors, ça ressemble, pour vous dire, un peu à un œuf poché blanc, vous voyez ? C'est un peu mou comme ça.
Jusque-là, tout va bien.
Et alors, c'est un cocon qui contient, en fait, une centaine d'œufs de petites tarentules.
Ah ouais.
Et donc, comme il retire comme ça le cocon, il y a la maman tarentule qui était au fond du terrier, qui accourt pour essayer de retenir le cocon, elle veut le protéger. Et elle y met toutes ses forces, elle s'y agrippe avec ses pattes, alors que le papa continue de tirer le cocon vers l'extérieur. Et alors, moi, j'aime pas trop les araignées, mais voir cette petite maman araignée qui défend ses œufs comme ça...
Oui, c'est touchant.
Ouais, c'est tout mignon. Enfin, bon, avec le bout du bâton, le papa soulève le cocon et l'araignée reste suspendue au cocon et au bâton. Et donc, elle est coincée parce qu'elle ne veut pas lâcher ni le cocon ni le bâton. Et en fait, elle est piégée. Parce que le papa va la prendre avec ses doigts, avec un geste très pro pour ne pas se faire mordre. Et il lui casse direct ses crochets venimeux et c'est cuit. C'est fini pour
tout
la
tarentule.
Tout ça
à la main,
avec un grand sourire, en disputant ses enfants. Parce que
Alors qu'il est dangereux si elle pique,
ah, mais
si elle mord.
C'est venimeux. Mortel,
ouais.
Et donc, évidemment, après qu'il ait capturé la tarentule, j'ai eu droit à « prends-la dans ta main ». Ça, c'est le grand classique. Donc, j'ai un petit peu hésité, mais en fait, je l'ai fait. Et en fait, c'est très doux. C'est très léger. C'est comme une caresse. Et pour ceux qui sont un peu arachnophobes, je conseille la caresse de la tarentule.
Ah, faut y arriver.
C'est une bonne thérapie, ça.
Mais c'est vrai. Vous pouvez vous réconcilier avec les araignées.
Les bons tuyaux.
C'est vrai. Et puis, alors, après, il a fallu goûter la tarentule. Alors là, c'est servi frit.
Ouais.
Et donc, j'ai commencé par les pattes. Et la saveur, comment vous décrire ? C'est un peu comme une petite tablette bien grillée. Ça a un goût de poisson.
Ah, de poisson,
oui,
tiens.
Un goût de poisson. Et je demande à la maman qui l'avait cuisinée, elle me dit « Oui, oui, la chair a le goût de poisson et la carapace plus le goût du crabe. » C'est assez étonnant.
Ah, on mange le tout.
On mange le tout. Alors justement...
Même comme... le carapace, le dur.
Oui, mais alors moi, comme je me suis dit « Bon, bah, ça a l'air pas mal, j'ai attaqué direct l'abdomen. »
Ah.
Bien ventru. Et là, quand vous croquez... Il y a une espèce de jus qui sort.
Mon Dieu.
Beaucoup de jus. Et vraiment pas bon. Hein. J'utilise des mots délicats. Et je vois toute la famille qui éclate de rire autour de moi. Et la maman me dit « Ah bah, tu viens de croquer dans la vessie. Elle avait peut-être pas fait ses besoins. » Et donc là, comment vous dire, le jus de tarentule, je l'ai un peu gardé.
Un baptême du feu.
Voilà, je le conseille à personne, le jus de tarentule. C'est juste infâme. Et voilà. Emmanuel, vous l'accommoderiez comment, vous, le
jus de tarentule, oui. Bah, je sais pas, comme on est en Asie, peut-être un peu de sauce soja, de citron d'ail, puis je tremperais les pattes de la tarentule dans le dip, quoi.
Ah, d'accord, ok, très bien.
Non, mais ce qui est intéressant, ce que vous avez dit, parce qu'il y a pas mal de pays où on mange des araignées, mais je crois que le Cambodge, on mange souvent les pattes et le thorax, et au Cambodge, c'est le seul endroit où on mange l'abdomen.
Ouais, ouais, c'est vrai, ils le mangent.
Ouais.
Ouais, c'est très bizarre. Laurent Holdener, vous êtes toujours en direct avec nous depuis le Cambodge. Vous êtes installé depuis 25 ans. Vous en mangez souvent des tarentules ? Vous mangez l'abdomen ?
C'est une question d'assaisonnement. Une pointe de sésame avec une friture d'une huile d'aujourd'hui et pas d'il y a une semaine, c'est un plat qui peut être bon. Mais il faut bien le préparer et c'est vrai que, à première vue, ce n'est pas très appétissant. Non. Mais voilà, c'est une des particularités. C'est vrai que c'est surtout pour les paysans qui se retrouvent dans des villages avec peu de nourriture qui mangent cette tarentule. Donc, ce n'est pas vraiment le plat qu'on mange tous les jours au Cambodge non plus.
Et pourtant, il y en a quand même beaucoup sur les marchés. J'ai l'impression qu'il y a un plaisir à acheter ça, non ?
C'est pour les touristes, beaucoup, je crois.
Ah bon ?
Non, pas tant que ça. Non.
Oui, alors il y a un peu le côté touristique, parce que oui, en effet. Mais c'est un peu comme les criquets qui sont plus goûteux. qui ont plus de vertus aussi au niveau des protéines. Je vous recommande plutôt les criquets la prochaine fois.
Non, mais c'est vrai que les criquets, c'est pas mal. C'est un petit goût de chips.
Ah, vous avez tout goûté.
Oui, j'ai tout goûté. Et je préfère le criquet à la tarentule. on reste tous ensemble, bien sûr, pour continuer à évoquer le Cambodge. Dans quelques instants, on va retrouver Nathalie Elal pour ses histoires croustillantes sur le Cambodge. Mais juste auparavant, évidemment, là encore un incontournable. Voici Kim Wilde, Cambodia, qui raconte l'histoire de l'épouse d'un pilote de l'US Air Force qui était basé en Thaïlande et dont le mari disparaît mystérieusement après un vol vers le Cambodge et qui ne revient jamais. Voilà, je vous ai raconté l'histoire parce qu'on n'est pas nombreux à la connaître.
Europe 1, Philippe Googler.
Nous sommes très très loin. Jusqu'à 18h au Cambodge sur Europe 1. Et Nathalie Elal, on repart encore, mais côté littérature cette fois.
Oui, et côté film d'animation également.
Oh, oupidou, oupidou, il voudrait marcher comme vous.
Ah.
Oui. Vous avez reconnu la chanson du roi Louis tirée du film Le Livre de la Jungle. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Le Livre de la Jungle ? Parce que ça se passe plutôt en Inde, hein, d'après le roman de Kipling, bien sûr. Eh bien, pas du tout. Le site d'Angkor est présent dans cette fiction que tout le monde connaît. Dans le film sorti en 1967, produit par Walt Disney et dernier film supervisé par Walt avant sa mort. Alors évidemment, c'est l'histoire de Mowgli, hein, cet enfant élevé parmi les loups qui doit rejoindre les hommes parce que la jungle est devenue trop dangereuse pour lui. Il y a le retour du tigre terrible Shere Khan. Puis autour de lui, il y a tous ces personnages. Balou, l'ours épicurien, le colonel Hathi, le vieil éléphant, ancien militaire. Et puis bien sûr, le roi Louis, cet orang-outan qui règne sans partage sur d'autres singes et qui vit dans les ruines d'un temple abandonné. Et bien ce temple, c'est donc Angkor. Alors bien sûr...
Donc c'est le Cambodge ou c'est l'Inde alors ?
Eh bien, c'est les deux parce que l'Inde a servi pour la trame de l'histoire, mais pour le roi Louis, eh bien, le scénariste s'est servi du décor du temple d'Angkor parce que c'était plus spectaculaire de voir un temple décrépit et colonisé par les singes. C'est vraiment le film à revoir, j'insiste, parce qu'on a tous gardé, je pense, notre âme d'enfant et surtout, c'est un bon moyen de s'amuser en regardant ce temple.
Alors, du côté littérature, qu'est-ce que vous avez trouvé ?
L'écrivain Pierre Loti, officier de marine, il s'est nourri de ses voyages pour écrire tous ses romans, de Tahiti au Sénégal, en passant par le Japon ou la Turquie et même la Bretagne, les pêcheurs d'Islande ou bien le Pays Basque. Il y a beaucoup, beaucoup de poésie dans ses voyages et Le Pèlerin d'Angkor, un livre paru en 1913, eh bien, il n'échappe pas à la règle.
La tonkiki.
La tonkinoise. Ouais, c'est l'époque. Alors, Loti explique qu'enfant déjà, il avait en tête ce voyage, découvrir les grandes ruines d'Angkor. Il vient de passer de longs mois à Saigon, l'actuelle Ho Chi Minh-ville au Vietnam. Donc il va s'offrir de là une expédition au Cambodge. Alors c'est l'époque coloniale, bien sûr, avec tout l'attirail, le fantasme de l'Orient, les statues, les divinités, les femmes qu'on appelle les anamites. Mais c'est un livre à découvrir pour rêver, s'évader et puis s'imprégner d'un spectacle de nature vierge.
Merci beaucoup, Nathalie. Nous sommes toujours avec Laurent, un Français d'origine cambodgienne installé maintenant au Cambodge depuis 25 ans. Laurent, il y a une... Vous êtes toujours avec nous, j'espère, en direct là-bas. On entend toujours la nature
derrière
vous.
Je suis là.
Laurent, il y a une ville dont on n'a pas encore parlé au Cambodge, c'est de Phnom Penh, qui est la capitale. Et pour moi, c'est vraiment une ville extrêmement attachante parce qu'elle est très différente des autres grandes capitales asiatiques, faites de buildings, d'autoroutes extrêmement bouillonnantes. Là, au contraire, on est dans une capitale que je trouve plutôt calme, plutôt paisible.
Oui, c'est une capitale où il y a un peu plus d'un million d'habitants, donc une petite capitale pour la région. C'est un pays, comme vous le savez, qui a eu une histoire plutôt triste, oui. Donc un développement plus lent que ses voisins. Et donc, Phnom Penh est en plein développement, ce qui veut dire qu'on commence à voir évidemment des buildings, des gratte-ciels qui commencent à monter, discrètement tout de même. Mais sûrement, mais il reste quand même cette ambiance qui est unique, qui sont tous ces anciens métiers, ces vieux métiers qui existent, les vendeurs qu'on trouve sur les trottoirs, qui réparent les chaussures, le ferblantier, le vendeur de glace, tous ces métiers n'ont pas disparu heureusement. Ouais. Donc c'est un contraste et un doux mélange en fait entre le modernisme et le passé.
Et il y a une ambiance, c'est vrai, très très cool, très agréable dans cette ville. Et moi, j'aimerais vous poser une question quand même, parce que quand on dit Cambodge, même après toutes ces années, on pense encore à la période atroce des Khmers Rouges. Hein. C'était entre 75 et 79, et c'est une période durant laquelle les Khmers Rouges ont fait régner la terreur sur le pays. Ils ont massacré, je crois, plus de 20% de la population. C'était épouvantable. Quand comme ça, parce que c'est pas si vieux, une partie de la population en a massacré une autre, comment ils font pour vivre ensemble d'une manière aussi paisible? C'est très surprenant pour moi, parce qu'il y a forcément un voisin qui était dans le coup, il y a forcément une histoire qui a touché nos proches. Comment on fait pour vivre en paix?
Je pense que la religion a beaucoup aidé là-dessus. Le bouddhisme, cette acceptation de ce passé, et on a une règle assez importante en Asie, hein, pas seulement au Cambodge, qui est, comme on dit en anglais, mind your business, occupez-vous de vos affaires. On ne veut pas non plus remuer tout ce passé-là. Donc il y a une acceptation. Mais malgré ça, il y a quand même une ancienne génération, celle qui a connu la guerre, qui a une population qui a été vraiment traumatisée. Aujourd'hui, on le ressent encore. Maintenant, ces anciens commencent à disparaître, meurent, et une nouvelle génération reprend le dessus. Une belle génération d'ailleurs, hein, qui n'a pas connu la guerre, heureusement, mais qui a accès à beaucoup plus d'informations, qui a une éducation surtout plus importante que ce que leurs parents ont vécu. Donc ça...
Et dans les écoles, voilà, on leur apprend ce qui s'est passé?
Très succinctement. C'est malheureusement le plus gros problème au Cambodge, c'est le niveau d'éducation qui reste encore très bas. Dans les manuels d'histoire, on en parle sur une page et demie. Il y a encore peut-être une confusion sur qui étaient les Khmers Rouges. Hein. On entend parfois des discours complètement absurdes, en pensant que ce sont les voisins, les Vietnamiens, qui ont massacré. Donc, il y a un réel problème d'information qui doit passer et de traumatisme.
Alors, Laurent Lener, je voudrais juste dire, comme pour ceux qui veulent visiter Phnom Penh, c'est qu'on ne voit pas grand-chose de cette période-là quand on est dans Phnom Penh. Hein, si on ne cherche pas à s'y intéresser. Alors, il y a quelques sites, évidemment.
Il y a un musée.
Il y a des sites très, 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 très forts, très bouleversants à visiter. Mais si on va pas les chercher, on ne ressent rien de spécial dans la ville. Hein.
Non, c'est une volonté aussi du pays d'effacer, de ne pas trop en parler. Et en effet, il y a un musée et quelques sites qui sont encore présents pour pour ne pas oublier. Mais encore une fois, les gens sont tournés vers le futur et c'est déjà très compliqué aujourd'hui. Donc, laissons le passé, pensons à l'avenir.
Merci beaucoup Laurent Lner de nous avoir fait partager un petit peu de votre Cambodge. Vous avez bien de la chance d'être installé là-bas, c'est un pays que j'aime vraiment beaucoup. Bravo.
Merci.
À une prochaine fois, j'espère. Dans quelques instants, nous continuons à explorer le Cambodge, mais côté saveur, avec Emmanuel Jarry. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Et si on partait ? Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1, tout l'été, tous les jours, un grand voyage. Nous sommes au Cambodge et j'adore les petites musiques, hein, on y est tout de suite. Et nous allons maintenant déguster le Cambodge avec Emmanuel Jarry. Alors, à part les tarentules, les araignées, les criquettes, qu'est-ce qu'on mange ?
Il y a plein de choses délicieuses et je dois avouer que d'ailleurs, je n'ai pas eu votre courage, Philippe. Moi, j'avais dit, je suis arachnophobe.
Et donc, mais elle est morte, elle est grillée.
Ah oui, mais ça me dégoûte, je ne peux pas m'en approcher. Mais à peine les regarder, je me souviens que le chauffeur en avait acheté et en fait, elles étaient vivantes dans un bocal. Ouais. Et on a démarré et pendant tout le trajet, je me suis dit, mais s'il y a un accident que le bocal s'ouvre, elles vont. Bref. Alors donc, il y a plein de choses.
Mais je vous assure que quand vous les caressez un peu, qu'elles passent sur votre main, après, vous verrez que c'est très doux. Non, vivante. Ah, mais c'est très doux et c'est très léger. Et vous changez d'avis.
D'ailleurs, vous en avez ramené dans ce studio.
Oui,
vous l'avez dit juste avant l'émission.
Je m'en vais tout de suite.
Tous les sales goûts sont dans la nature.
Non, ça, c'est impossible. Mais par contre, en revanche, évidemment, heureusement, il y a plein de bonnes choses au Cambodge. Ouais. Et notamment, il y a deux produits qui sont particulièrement savoureux, je trouve. C'est le sucre de fleurs de palmier, rien que de le dire comme ça, c'est joli. Ouais, et le poivre de Kampot. C'est d'ailleurs produits qui ont une indication géographique protégée qui a été décernée par la Commission européenne. Alors, le sucre de fleurs de palmier ?
Bah oui.
Alors, d'abord, le palmier à sucre, c'est un arbre qui est très important dans la culture khmer parce que c'est un des trois symboles nationaux avec le temple d'Angkor et la fleur de Rondduol. Je ne sais pas si vous voyez, c'est cette grosse fleur jaune qu'on voit souvent sous les bas-reliefs. Ouais. Parce qu'en fait, avec ce bois de palmier, les Cambodgiens construisent les maisons, les bateaux, mais aussi toute la vaisselle, les bols, les cuillères, les fourchettes, les baguettes qu'on n'utilise que pour les nouilles. Mmh. Et, sinon, on mange avec une cuillère et une fourchette au Cambodge.
Donc j'ai fait des erreurs quand j'étais sur place.
Non, après, je crois que ce n'est pas grave. Hein, c'est
je
pas
m'en excuse.
C'est vrai qu'ils ont plus l'habitude de...
Ils en parlent encore au Cambodge. D'ailleurs, ça rigole.
Je suis banni.
Moi, j'y suis passé il n'y a pas longtemps. Les gens rigolent. Ils ont dit, vous nous avez envoyé un gars, mais qu'est-ce qu'on
a fait ? Il a mangé avec des baguettes tout le temps. Non, le riz à la cuillère, les nouilles avec les baguettes. Et donc voilà, c'est un arbre qui est important pour tout ça. Et aussi parce qu'on fabrique le sucre. Moi, j'ai assisté à une récolte de sucre de palmier. C'est assez fascinant et c'est très dangereux. Il y a plus de décès aujourd'hui qui sont liés à la chute des hommes, des palmiers, décès provoqués par l'explosion des mines.
Ah bon ?
C'est ce qu'on m'a dit. Donc en fait, les palmiers mesurent 10 à 30 mètres de haut et les hommes montent sans être sécurisés le long du tronc sur des échelles en bambou pour aller chercher la sève des bourgeons de fleurs, des bourgeons qui sont à peu près de la taille et de la grosseur de mon avant-bras. Hein. Donc c'est quand même des très grosses fleurs. Ils les entaillent, ils placent des petits paniers tressés sous la fleur pour récupérer la sève qui va couler comme ça pendant plusieurs heures. On peut récupérer jusqu'à 20 litres par jour. Donc il faut monter pour poser les paniers et puis monter ensuite pour récupérer dans la même journée pour pas que le liquide fermente. Donc vous voyez, il y a deux allers-retours. Donc
ça, c'est avec 20 kilos autour de soi.
Exactement. Ah, oui. Il y a tous les petits paniers qu'on porte. Donc voilà, c'est assez dangereux. Et moi, surtout, ce que je trouve fascinant, c'est que je me dis, mais comment les hommes ont eu l'idée un jour monter en haut de ces arbres, à 30 mètres de haut, de se dire, tiens, je vais couper une fleur et puis je vais prendre le liquide. Et ensuite, une fois qu'ils redescendent, ils font cuire ce jus de palme et ils obtiennent une pâte assez dure. C'est un sucre qui n'est pas raffiné et qui souvent se présente en bloc. Et on peut les acheter comme des petites douceurs qu'on mange comme ça directement.
Mais ça vaut vraiment le coup, tous ces efforts ?
Pendant très longtemps, c'était la seule source de sucre dans le pays, quand même. Ouais. Aujourd'hui, il est même, il a cette IGP, donc il a été un peu plus médiatisé, exporté. Et il est transformé en sucre semoule. Mais sur place, c'est plutôt des pains de sucre. Et il a un avantage, ce sucre, c'est qu'il a un index glycémique qui est très bas. Donc c'est bon pour les personnes diabétiques.
Ah, et puis surtout, on peut manger du sucre sans les inconvénients.
Voilà,
c'est pas mal ça.
Peut-être pas en manger trop, mais si quand même, il est bon. Et surtout, il a un goût caramélisé, un peu épicé. Il est très fort, contrairement au sucre trop raffiné qui n'ont que un pouvoir sucrant. En fait, là, il a un goût. Alors, il est beaucoup cuisiné dans les desserts. Les Cambodgiens adorent les produits sucrés. On fait par exemple des petits gâteaux de riz gluant délicieux. Et puis alors surtout, ce qui est amusant, c'est qu'ils en mangent toute la journée. C'est pas du tout en fin de repas. C'est dès qu'ils ont un peu faim, hop, on mange le côté. On mange pas entre les repas là-bas. Il y a pas de problème. table, mes
entre
enfants.
Deux tarentules.
Ouais, entre deux tarentules. Hop, un petit gâteau de riz gluant. Et puis moi, je l'ai goûté, j'ai un souvenir, dans un délicieux porc caramélisé au sucre avec de l'ail, de l'eau de coco et du poivre de compote.
Ah ouais, et c'était bon ?
Ouais, c'était très très bon.
Et le poivre de compote, ça c'est un produit dont ils sont très très fiers là-bas.
Ouais,
c'est tout le monde vous en parle.
Ouais, c'est un beau produit et il a aussi cette IGP. En fait, il est cultivé sur la côte
Qu'est-ce
au sud
IGP
du pays. Une indication géographique protégée, pardon.
Merci.
Et donc il est cultivé sur la côte. C'est un poivre qui est séché au soleil, ce qui renforce son parfum. Et il a la particularité de pouvoir se cuire parce que quand vous cuisez un poivre, les parfums disparaissent. Là, il garde ses arômes et donc c'est des notes résineuses d'eucalyptus, de menthe fraîche. Donc on l'utilise beaucoup dans la cuisine. Et alors là, je conseille vraiment, on parlait de Phnom Penh tout à l'heure, d'aller au marché central et de goûter. C'est le 5e plus grand marché au monde. Il y a plein de stands de nourriture. On peut manger sans crainte. Ça, c'est pour Nathalie
et Lal. Je fais une petite parenthèse sur ce marché. Il est assez incroyable parce que vous avez plein de donc vous avez tout, des chaussures, des vêtements, des produits alimentaires, etc. Et puis au milieu, vous avez un salon de beauté. Mais entre les poireaux et les carottes,
c'est
vous vous allongez et ils vous font un masque facial.
Mais c'est ça, mais
c'est dingue, c'est un mélange invraisemblable.
C'est ça, c'est ces pays où on ne cloisonne pas les plaisirs. Moi,
voilà,
j'ai toujours ça.
C'est
donc,
bien dit.
Ben
ça,
oui.
Ouais.
Et donc on mange, on se fait masser. Et alors qu'est-ce qu'il faut goûter ? Il faut goûter le loc lac. C'est un riz sauté à la tomate avec de l'ail, de la citronnelle, de la sauce d'huître d'un côté et de l'autre, on fait mariner de la viande de bœuf avec le poivre de compote et le sucre de palmier. Et donc c'est servi. Ça, j'adore ces mélanges-là en Asie, des crudités d'un côté, donc très frais, croquant et qui contrebalance le côté épicé du plat. Alors là, on est vraiment dans l'influence chinoise avec le riz sauté, la marinade. Et l'autre grand plat, c'est le hammock. C'est une pâte de poisson au lait de coco. On en voit beaucoup là-bas. Au curry. Donc lait de coco curry cuit dans une feuille de bananier.
Ça, j'aime pas, moi.
C'est...
Ah,
mais
bon,
pourquoi ?
Vous
n'avez
pas aimé, Philippe ?
Non, parce que c'est... J'aime pas ces trucs, c'est pâteux.
Ah, c'est... Bah oui, c'est comme un petit pâté.
Ouais.
C'est un petit pâté de poisson ou de poulet parfois.
Oui, mais un pâté pas très bon.
Oh, bah si, c'est délicieux. Et puis, c'est joli, la petite feuille de bananier tressée. Puis le petit pâté dedans, on peut l'emporter. Il y a le contenant, le contenu.
Je préfère l'abdomen de Tarantin.
Oui, c'est ça. Chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Et donc voilà, on le cuit à la vapeur. Et là, on est dans l'influence indienne avec le curry, le lait de coco. Parce que les deux grandes influences pour la cuisine cambodgienne, Khmer, c'est l'Inde et la Chine.
Ah, très bien. Merci beaucoup, Emmanuel. Dans un petit instant sur Europe 1, tous les bons conseils pour bien profiter du Cambodge. C'est un pays tellement riche, il y a tellement de choses à faire qu'il faut avoir les bons tuyaux. On retrouvera Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet.
16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Et nous sommes toujours au Cambodge jusqu'à 18h. Comme chaque soir, un grand voyage sur Europe 1. Et voici Jean-Bernard Carrier qui va nous donner quelques bons tuyaux pour visiter la capitale peut-être déjà, qui n'est pas forcément facile d'accès comme ça au premier abord.
Ah, écoutez, elle est facile à vivre, ce qui est déjà pas mal.
Vivre.
C'est déjà pas mal, parce que vous l'avez dit, les autres métropoles asiatiques, on se sent un petit peu oppressé.
Ouais.
L'arrivée à Phnom Penh, c'est vraiment décontracté, on sent tout de suite qu'on va prendre ses aises facilement. Donc généralement, en tant qu'auteur de guide, je conseille pas forcément de rester très longtemps dans les capitales, mais là c'est l'inverse. On dit à Phnom Penh, il faut vraiment prévoir 2 à 3 jours de séjour pour en profiter au maximum, parce que vous l'avez dit, il y a vraiment un charme presque provincial. Les gratte-ciel, il commence à en avoir de plus en plus.
Ouais.
Alors, c'est vrai qu'avec les investissements chinois en ce moment, ça se développe un peu. Il y a un vrai boom immobilier, mais ça reste encore modéré par rapport aux autres capitales. Il n'y a pas ce côté trépidant qu'on peut retrouver un petit peu ailleurs. Donc on se met à l'aise dans cette capitale. Cette douceur de vivre, cette indolence, moi j'avoue que j'y ai pris mes marques très facilement. Et je pense que c'est aussi votre cas,
Philippe.
Oui, oui.
Et quand je dis qu'elle n'est pas facile d'accès, je veux dire qu'au début on ne sait pas trop où aller. Parce qu'il n'y a pas vraiment un lieu central, fantastique, etc. Mais en revanche, il faut accepter de se laisser porter par une sorte d'indolence.
Alors,
et là vous êtes bien.
Alors moi je me suis laissé porter jusque sur les rives du Mékong.
Oui, il y a ça, il y a les
parce que vous
Mékong,
savez pourquoi il y a des très très bons restaurants,
oui,
c'est un petit peu les bords de Seine, c'est un petit peu, il y a de très bons restaurants où on peut déguster un excellent hammock face aux rives sur les berges du Mékong et ça c'est vraiment génial. Voilà.
Encore.
Alors,
comment on fait ?
On va faire un petit tour encore, parce que ça, c'est vraiment le joyau touristique, le site archéologique majeur. Tout l'Empire Khmer sous vos yeux du 9e au 15e siècle, ça ne se loupe pas, c'est pas possible. C'est l'âme de la civilisation khmer. Il faut quand même savoir qu'il y avait 1 million d'habitants sur le site d'Angkor à son apogée.
Ouais. 1 million, et c'était sans doute la plus grande cité au monde par son étendue.
Exactement.
À son apogée. C'est un endroit incroyable. pris dans la forêt,
pris dans la
végétation, et du coup l'ambiance est vraiment extraordinaire.
Alors je ne sais pas ce que vous avez ressenti lorsque vous êtes arrivé pour la première fois, Philippe, mais moi j'ai été subjugué par la taille du site. Il faut savoir que ça fait 300 km², en gros ça fait trois fois la taille de Paris.
Mais oui.
Donc vous n'allez pas faire ça en une journée, hein, faut quand même le dire. La beauté, la qualité des monuments, évidemment, il y a des dizaines de palais, des temples et des pagodes, c'est très varié, vous n'allez pas vous ennuyer, ce n'est pas les mêmes monuments partout, c'est des monuments qui sont déclinés de plein de façons différentes et des sculptures absolument différentes sur chaque monument, donc il y a une ambiance pour chacun, donc ça mérite vraiment qu'on y consacre beaucoup de temps.
Puis surtout, il y a les temples principaux où tout le monde va, puis après on peut sortir et là on est tout seul.
Tout à fait.
Et ça, c'est mieux.
Et puis, on va en parler parce qu'il y a aussi justement aussi ce décor si particulier en sorcelant où il y a effectivement ces banians, c'est les banians, les fameux arbres avec les lianes aériennes qui enserrent certains de ces temples. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a des moines aussi, c'est des lieux encore actifs. Et justement, il faut quand même préciser aussi à ceux qui nous écoutent que lorsqu'on va dans ce type de lieu, il y a une nouvelle réglementation qui a été mise en place, il faut avoir une tenue un peu plus décente que ce que j'ai vu sur place. Voilà. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'y aller en jupe, on n'a plus le droit d'y aller avec les épaules découvertes. Ce sont des lieux sacrés et j'ai envie de... Là, c'est un petit peu mon petit coup de gueule. Attention, ce sont des lieux qu'il faut respecter.
C'est normal. Voilà. Alors encore, donc, ces cités perdues, prises dans les arbres, dans la forêt, dans la jungle. D'ailleurs, j'ai appris un truc assez étonnant, c'est que quand on voit des arbres qui sont mêlés avec les pierres, on a l'impression que l'arbre a poussé sous la pierre et puis qu'il a traversé et qu'il a grandi. Et souvent, non, c'est pas ça. Ce sont les oiseaux qui grignotent des fruits et qui lâchent des graines. Et les graines tombent sur les vieilles pierres et ça pousse dans les pierres. Les racines écartent les pierres comme ça. Et c'est pour ça que c'est une espèce d'œuvre d'art entre l'arbre et la pierre. Et c'est magnifique.
C'est hyper photogénique.
Hyper.
Voilà. Alors moi, je dis franchement, les gens me demandent toujours mais combien de temps il faut pour visiter encore, puisque c'est si grand que ça. Je leur dis minimum 2 à 3 jours. Sachant qu'il existe un pass, un forfait plutôt, qui fait 3 jours, qu'on peut utiliser sur une semaine en discontinu. Donc vous n'êtes pas obligé de faire les 3 jours d'affilée. Donc étalez votre visite, c'est le premier conseil que je donne. Deuxième conseil, mixer les modes de déplacement. On peut le faire en partie à pied, en partie en tuk-tuk. Tuk-tuk, en cas de pluie, vous êtes couvert. Ou en vélo. C'est aussi quelque chose qui se fait en vélo. Ouais. C'est très plat, il y a des pistes bien aménagées.
Plat, il fait chaud. Hein.
Alors, il fait chaud. Il faut faire attention à, effectivement, température. Et puis, allez-y, si possible, à Siem Reap, à côté, il y a beaucoup de guides francophones. Allez-y avec un guide francophone qui vous expliquera, donnera un petit peu les clés de lecture au niveau culturel de ces sites-là. Il faut quand même avoir quelques indications sur l'histoire du site.
Bon, après, il cherchera forcément à vous emmener au restaurant de son beau-frère.
Oui,
mais
c'est vrai. Mais il y aura peut-être de la tarente, je ne sais pas. Il y a aussi des moyens, si pour ceux qui ont les moyens, il y a la possibilité de survoler le site en hélico. Vous savez que j'aime bien prendre de la hauteur aussi. Ah oui. Et il y a même un ballon qui est attaché 200 mètres de haut. Là, vous avez une vue panoramique sur l'ensemble du site. Voilà. Les horaires, attention. Allez-y en très tôt le matin, entre 6h et il y a moins de monde. Et, ou alors juste après le petit déjeuner, parce que les groupes vont prendre le petit déjeuner entre 7h et 9h. Donc c'est là aussi que vous pouvez visiter à ce moment-là. Donc il faut jouer avec les horaires.
C'est bon à savoir,
il faut préparer sa visite. Il y a beaucoup d'astuces à connaître.
Et puis surtout, ne pas aller où tout le monde va. C'est-à-dire que quand on va sur les à côté, c'est tout aussi charmant et vous êtes tout seul et là c'est magnifique.
Ou alors, une autre astuce, Philippe, aller dans le sens inverse que les groupes, voilà, tout simplement.
Ouais, c'est vrai. Voilà. Vous êtes papy les bons tuyaux.
Pourquoi papy?
Oui, c'est pas bien gentil.
Ma journée est terminée. Non, mais c'était gentil. C'était affectueux.
C'est papy les bons tuyaux dans StarKiotch.
C'était affectueux, pardonnez-moi. Le lac Tonlé-Sap.
Ben, je suis comme vous, je suis tombé amoureux de ce site. C'est le poumon vert du Cambodge. Alors, j'ai adoré le fait de voir. Je me suis toujours demandé comment ces édifices tenaient sur le lac. Moi, c'est le côté un petit peu ingénierie qui m'intéressait. Vous avez raconté qu'effectivement, c'était des maisons flottantes qui se déplaçaient. Moi, j'ai voulu en savoir plus et je me suis fait raconter cette histoire technique. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont à flot, ces maisons sont à flot sur des coques de bateaux. Il y a des tonneaux et des fagots de bambou. C'est des espèces de fondations, les ballasts, qui permettent à ces maisons de se déplacer lorsqu'on doit les bouger sur le lac. Ouais. Parce que vous avez expliqué qu'effectivement, en fonction des marées, des crues, on déplaçait ces maisons-là.
Donc je trouve ça extrêmement ingénieux. Tout à l'heure, il y a des villes flottantes.
Sur
le lac Tonlé-Sap, qui se déplacent en fonction des crues, etc.
Toute la ville, alors.
Et je suis comme...
Ça dépend, c'est maison par maison, ça dépend où vous êtes dans la ville, enfin c'est un peu compliqué.
Alors je suis comme vous, j'ai vu, en me baladant sur cette barque, j'ai vu des mamans qui faisaient leurs courses dans les échoppes, les bijoutiers, les coiffeurs, les pêcheurs qui ramenaient leurs prises du jour. Et ce qui m'a surpris, j'ai vu des bars à karaoké flottants. Donc il y a même les boîtes de nuit, si vous voulez, flottants. Je trouve que c'est quand même quelque chose à voir une fois dans sa vie.
Ouais. Dans le sud du pays, on n'en a pas trop parlé.
Alors le sud du pays, je suis allé du côté balnéaire, la façade balnéaire du Cambodge. Il y a une façade maritime, on l'oublie un petit peu, du côté des villes qui s'appellent Sihanouk et Kampot. Voilà, c'est les deux grandes stations balnéaires du pays. Mais moi, ce que j'ai préféré, c'est la ville de Kep. Kep, pourquoi Kep? C'est un petit peu le cancale, je me tourne vers Emmanuel, c'est le cancale local. C'est pas les huîtres qu'on vient manger là, c'est les crabes. Voilà, ah, on vient de tout le pays pour se régaler. Voilà, exactement. On va se régaler de crabes, ils sont vendus tous les matins directement sur le front de mer, et également du poisson grillé, ça c'est quelque chose, je me damnerais pour ça. Voilà,
et alors un truc qu'on ne dit pas beaucoup, mais c'est qu'au Cambodge, il y a aussi des îles paradisiaques.
Ah voilà, vous touchez à mon cœur, là, la plage de sable blanc, l'eau turquoise, le farniente, les cocotiers, les petits bungalows et le hamac frémissant par la brise. Voilà ce qu'il me fallait. Cette ambiance-là, je l'ai trouvée dans une des îles au large du Cambodge. Rien à voir avec la Thaïlande, qui elle compte beaucoup d'îles, mais beaucoup plus fréquentées. Au Cambodge, il y en a juste une poignée. Je ne résiste pas au plaisir de vous dévoiler le nom de cette pépite d'île pour votre prochain voyage. Il s'agit de Koh Rong, un paradis caché à 2 heures de bateau de Sihanoukville. C'est pas du tout bétonné. Vous serez au calme absolu. Et vous serez vraiment déconnecté de toute la civilisation.
Merci Jean-Bernard Carrier de nous lâcher des secrets aussi précieux, parce que ça vaut de l'or, ça, ces petites îles secrètes. Merci à vous qui nous suivez d'être venus aussi loin, d'avoir voyagé avec nous. Demain, on repart, on reprend la valise et nous irons dans un pays radicalement différent. On va partir au pays du Machu Picchu, de Lima, des Incas. Ce sera bien sûr le Pérou à partir de 17h et en première heure à partir de 16h, direction la Drôme et l'Ardèche avec bien sûr ces sites merveilleux, ces volcans, il y a des volcans là-bas, on en parle moins. Et puis bien sûr la grotte Chauvet. À demain, dans un tout petit instant, le grand journal du soir. Bonsoir François Claus.
Bonsoir Philippe. Bon, j'ai bien noté, Koh Rong, c'est ça?
Ah ouais.
Koh Rong, là, quand on est au milieu des tours du 15e et dans notre studio européen, on a envie d'y aller.
On vous comprend.
Mais il ne faut pas trop le répéter, on ne le dit qu'une fois, on n'en parle plus.
Allez, ça reste entre nous. Bon, on repart avec vous demain, Philippe.
Absolument, dès 16h.
Le temple du soleil, on l'a compris, au programme notamment.
À bientôt, François.
À bientôt.